Il fallait ça pour se réveiller à quasiment 21h. Qu'est-ce que c'est que cet horaire? Ça n'a aucun sens. Le streamer du matin, je suis censé être le streamer du matin, il est 20h57, ça n'a aucun sens. Comment ça va vous? Je lis dans le chat plein de messages d'anniversaire pour Malo, c'est mon grand qui a 7 ans. Voilà. Je pensais qu'il y avait une soirée ce soir. En fait, nous, on a fait un petit déj d'anniversaire ce matin. Et le vrai anniversaire de Malo, c'est ce week-end. Voilà. Donc du coup, je me suis dit let's go, j'ai lu les journaux ce matin. Il n'y a pas un milliard de trucs, mais il y a notamment un truc assez important autour de cette invitation des différents partis politiques autour du président Macron. Là, c'est en ce moment même, normalement, ils sont au dîner, là. Je vais lui dire, on va en parler un petit peu, quoi. Et dans ces messages d'anniversaire, je voyais quelqu'un qui me disait qu'aujourd'hui, c'était aussi l'anniversaire de Laurent Delahousse, que c'était aussi l'anniversaire de, attendez, je remonte dans le chat, Carlito. C'est drôle parce que j'ai échangé avec Carlito il y a quelques jours à propos de questions pour un champion, parce que sachez que Carlito, de McFly et Carlito, avec toute sa famille, les plus jeunes, les plus âgés, ils regardent Question pour un champion, donc on en parlait, c'était rigolo. Et on me dit que c'est l'anniversaire de Pépin. Et alors là, ça m'intéresse. Est-ce que c'est vraiment l'anniversaire de Pépin? Parce que moi, je suis en train de discuter avec Pépin de trucs de taf, là, depuis tout à l'heure. Et si c'est l'anniversaire de Pépin, c'est l'anniversaire de Pépin en vrai ou pas? Oui? Ah, trop bien! Ok, parce que je suis allé sur son compte Twitter, vous savez, parfois sur les comptes Twitter, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, il y a des ballons. Je suis allé voir, il n'y avait pas de ballon. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mis sa date de naissance. Et donc, je lui ai envoyé un message, parce que vous savez comment je suis. Hein. Je doute de tout. Et je lui ai dit, on me dit dans le chat que c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'attends la réponse. Joe l'a mis sur Instagram, je crois. Ah ouais. Joe, il est comme ça, quoi. Il parle de la vie privée des gens, comme ça. Ah, c'est... Broubrou06, merci pour les bits. C'est adorable. Donc, voilà. Donc, ça fait plein de chouettes personnes qui sont nées aujourd'hui, en fait. Donc, ça veut dire que Malo... est né le même jour que Pépin, le même jour que Carlito et Laurent Delahousse. C'est cool en vrai. Pépin va te ban, Samuel. Non, je suis un mec gentil, pourquoi elle me bannerait? Comment ça va, vous? Ouais. Source de l'information, Instagram. Wouhou! Attention, tu vas être ban. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais encore? J'ai vu qu'il y avait un Defun Intelligence là, qui a pris un ban def. Ça va sûrement être levé, c'est pas possible. Pour l'histoire de son IA du président Macron, là, qui à un moment a dit des dingueries, enfin des pseudo-dingueries en fait. Hein. Évidemment, si c'est pris avec aucun recul, ça va être sûrement levé. Ça. Ah, elle n'aime pas trop son anniversaire? Merde. Ah, ok, zut. Elle banne. Oh, merde! Ok. Donnez, je ok. Oups, j'ai rien dit. On me dit que tu vas me ban. Moi, je veux garder mon amitié avec Pépin. On me dit que tu vas me ban. Voilà. Un petit cœur. Heureusement que vous êtes là, hein. À la fois pour me donner les infos, pour m'engueuler avec les gens, et l'info pour m'excuser après. Maître Bacchus, j'ai envie de dire merci pour le prime. Il y a Rythme qui dit, t'as qu'un maître, désolé, je me suis trompé de chat. Oh, j'adore l'excuse. J'adore. C'est quand on anniv, ça? Moi, c'est le 20 mai, moi. Le 20 mai prochain, 2024, j'aurai 27 ans. Voilà. L'une des deux infos est fausse. Moi, ça va, ouais. Alors... Minou, merci pour le prime. Alors, je vous avais dit, c'était une réflexion qui était en cours cette année, comme mon intention est de streamer plus de quantité, plus de qualité. Eh bien, une des questions que je me suis posée, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible, les jours où j'ai question pour un champion, les jours où d'habitude j'ai repris aujourd'hui, je ne stream pas, eh bien, est-ce qu'il serait possible que je me lève assez tôt le matin pour lire les journaux? Ce que j'ai fait ce matin. Et puis le soir, un petit stream rapide, quoi, de 2 heures à la cool. Hein. On ne dépasse pas 23 heures parce qu'il faut que je me couche tôt quand même. Voilà. Et bon, bah, c'est ce que j'essaie de faire ce soir. Sachant qu'il n'y a pas 1000 infos. Ce matin, j'étais un peu difficile dans ma sélection des articles et des journaux. Mais il y a une info essentielle dont je voulais parler avec vous, qui est notamment ce qui se passe en ce moment même, là. Comment ça s'appelle? Le lycée de la Légion d'honneur, je crois. C'est à Saint-Denis, si je ne dis pas de bêtises, où le président Macron a réuni tous les représentants des partis politiques. Voilà. Donc, c'était un peu la grosse info politique. Et comme je pense qu'il va sûrement en être question, tiens, le coup d'État au Gabon, il n'y a rien dans les journaux parce que c'est tombé après la sortie des journaux, mais on ira quand même chercher des trucs sur le Gabon, vous avez raison. Voilà. Et comme on va en parler sûrement de cette initiative politique du président Macron vendredi soir dans les Bleuetiennes, vu qu'on reçoit Jean Massier, hein, eh ben, du coup, je trouvais cool d'en parler avec vous ce soir. Quoi. Yomi Envy, merci pour le 12e mois d'abonnement. Minou, encore merci pour le Prime. Samuel, au début de Twitch, tu disais jamais faire plus de 2 heures de stream. 2 jours plus tard, tu n'as fait aucun stream de moins de 3 heures. Ce n'est pas faux. Ouais. Ouais, exactement. Voilà. Alors à propos, tiens, de la reprise de questions pour un champion, j'ai posté cette drôle petite photo ce matin, puisque j'ai repris les enregistrements de la 8e saison qui débute, parce que je commence ma 8e saison de questions pour un champion, comme le temps passe, voilà. Et donc j'ai tweeté ce matin le début de ma 8e saison de questions pour un champion. Merci aux équipes de France Télé et de Fremantle, qui est le producteur, pour leur confiance. C'est top de travailler avec vous, c'est vrai. Que c'est un bonheur de travailler avec ces gens. Qui on a là? On a l'équipe technique de questions pour un champion, les cadreurs, les caméramans, les ingé-sons, les responsables de la lumière, les responsables du son, les gens de l'équipe casting, les gens qui s'occupent des candidats, qui font tout pour que ça se passe bien, les gens de la production de Fremantle, hein, les responsables, le monsieur qui ressemble à un Papa Noël là, derrière moi avec, vous voyez l'écharpe bleue, là, c'est un garçon formidable qui s'appelle Olivier, qui est l'un des deux réalisateurs de Questions pour un champion. Ils alternent avec Karl, c'est drôle parce que c'est un copain d'enfance qui était au lycée avec moi, le hasard de la vie. Voilà. Puis vous avez des gens de Fremantle, vous avez des chefs plateaux, vous avez qui sont glissés ici des candidats. Vous voyez la dame avec le pull rouge, le monsieur adorable, tous les candidats aujourd'hui, je me suis régalé, avec la chemise bleue, le jeune homme avec le t-shirt jaune là. et le garçon à droite avec un petit micro, regardez sa chemise bleue. Ça, c'était les quatre premiers candidats de la journée ce matin. Adorable. Voilà. La jeune fille avec le blouson un peu stylé, disco, doré, ben c'est l'habilleuse qui est adorable. Voilà. Il y a des techniciens. Voilà. Voilà. Et l'idée, c'était de montrer que ben, derrière un jeu où vous voyez un présentateur et des candidats, ben, il y a plein de gens, en fait. Et ça bosse, hein. Et ça bosse, je peux vous dire que ça bosse. Et c'est une super équipe qui travaille dans la bonne humeur, dans le respect des uns des autres. J'ai jamais vu, ça fait 7 ans, hein, je commence la 8e saison, jamais vu une engueulade. Les gens sont à leur poste, ça taffe, c'est chill en même temps, ça rigole. Voilà. Il n'y a pas Laurent, qui est le producteur artistique de l'émission, quelqu'un avec qui j'adore travailler, tout simplement parce que c'est lui qui prend la photo, il prend des super photos. Voilà. C'est con, parce que c'est la personne avec qui je travaille le plus, quoi. Voilà, mais voilà. Et là, vous voyez le garçon là, beau gosse là, bronzé là. Ça c'est Olivier, c'est le responsable de la lumière. C'est un gars qui est super fort pour régler des très belles lumières. Voilà. Et c'est lui qui est venu m'aider à régler les lumières sur le plateau de l'Hebdo Étienne et ça me plaît. Voilà. Donc c'est lui qui m'a proposé en fin de saison dernière, ça m'a fait super plaisir. Quoi. Voilà, petite photo de rentrée là, c'était cool. C'est qui fait les questions, me dit Poppy Pop, c'est 12 personnes qui sont pas là. Je vais quand même vous montrer quelqu'un. C'est, je sais pas si on peut zoomer là, sur ce truc. Non, je suis au maxi là. Il y a 12 personnes en CDI à temps plein qui en permanence écrivent des questions. Voilà. Des gens qui font ça parfois depuis des années, parfois des gens qui font ça depuis 30 ans. Hein. Ils sont entourés de dictionnaires, d'encyclopédies, évidemment ils ont internet, et voilà, d'un logiciel spécial qui leur permet de rentrer les questions, de vérifier si une question n'a pas déjà été posée sous cette forme ou une forme approchante depuis la création du jeu, voilà. Et ils trouvent des idées de questions, des nouvelles questions, en s'inspirant notamment de l'actualité, parce que Question pour un champion est un jeu qui est ancré dans l'actualité, politique, économique, culturelle, musicale, etc. Donc ils bossent en permanence et une fois qu'ils fabriquent des questions, ils fabriquent des épisodes, parce que dans une émission, bah, ils font des questions un petit peu de tout. Hein, faut pas mais comme ça des questions au hasard, non. Il faut des questions de difficultés différentes, notamment en première manche, question à 1, 2, 3 points. Et puis, il faut de la variété. Il faut dans une même émission, il ne faut pas 15 questions de sport. Il faut un peu de sport, un peu de mythologie, un peu d'histoire, un peu d'histoire ancienne, un peu d'histoire contemporaine. Il faut de la musique, musique ancienne, musique beaucoup plus proche de nous, il faut, etc., etc., etc. Donc, il faut créer des épisodes. Et après, il y a des gens qui lisent ces épisodes, qui voient si ça fonctionne, qui voilà, ils se relisent entre eux pour vérifier les informations corrigées, etc. Et tout. Voilà. 12 personnes, c'est énorme. Par contre, ben non, en taux. 6 émissions par semaine de 45 minutes, un nombre de questions incroyable. Et si tu veux avoir cette qualité, parce que la qualité des questions de Question pour un champion, elle est juste insane, elle est folle. Hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de poser des questions un peu vagues, quoi, un peu approchantes, un peu, voilà, qui pourraient accepter différentes réponses, parce que les candidats sont à tel niveau, si vous voulez, qu'ils ne nous louperaient pas. Donc il faut des questions d'une extrême rigueur, et vous avez 12 personnes à temps plein, en CDI. Moi, on m'a expliqué à l'extérieur que c'était le seul jeu qui faisait travailler des gens comme ça à temps plein, en fait. Voilà, les autres sont un peu freelance, quoi. Voilà, je suis très fier de ça, parce que c'est vraiment une super équipe, super qualité de travail. J'espère que ça va rester comme ça. C'est comme ça depuis 1988. Et j'espère que je passerai la main un jour à un autre animateur, à une autre animatrice, le plus tard possible. Et que cette qualité de travail, elle va se poursuivre. Et que France Télévisions va continuer à faire confiance à ces gens-là, qui sont formidables. Voilà. Et ça fonctionne, puisque cette émission qui a 34 ans, 35 ans cette année, eh bien, c'est étonnamment une émission qui continue à progresser en audience, c'est-à-dire qui touche de plus en plus de public. Voilà. Ça fait 7 ans que les audiences augmentent régulièrement. Pour une vieille émission comme ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est un jeu qui a su rester dans l'air du temps, qui a su s'actualiser. Voilà. Et j'espère que ça va durer longtemps avec moi et puis après moi. J'espère que je passerai la main. Voilà, je serai très content. Voilà pour la petite. Alors, c'est pas de la promo, hein, c'est juste pour vous dire le plaisir que j'ai de faire ce job. Je pense que c'est évident si vous regardez le jeu. J'ai des candidats qui sont vraiment de toutes les générations. J'ai des candidats de plus en plus jeunes. Voilà. Je pense qu'Étoile n'y est pas pour rien. Voilà. Rayou à la relève, ce serait rigolo, mais ce serait formidable. Voilà. Mais en vrai, Rayou, mais ouais. Après, je sais pas si l'ingénieur Rayou, hein, le streamer musée Rayou aimerait animer une, une émission, mais en vrai, ouais, en vrai, il a, je pense qu'il a toutes les capacités d'animation, c'est quand même un streamer, et de culture et de connaissance et de curiosité, et curiosité de connaissance et des autres pour animer ça, quoi. Mais bon, ah, je sais pas si ça pourrait l'amuser, quoi. Comment lis-tu si vite et si distinctement les questions ? Merci Camomille, je sais pas si c'est distinct et rapide, mais bon, c'est une question d'entraînement, hein. Ça fait 7 années pleines que je lis des centaines et des milliers de questions. Si tu devais passer la main aujourd'hui, tu voudrais la passer à qui ? À personne, Brevelé, parce que je suis trop heureux, je veux passer la main à personne. Plus tard. Je vous lis un petit peu sur Question pour un champion. Après, je vais vous montrer la line-up dont je suis assez fier de les... Voilà, j'ai posé des questions toute la journée, je suis un peu enroué. De l'hebdo Étienne de vendredi, parce qu'en vrai, j'ai une belle line-up dont je suis assez fier. Voilà. Quelqu'un est là. Bah tiens, je reviens à ce que je voulais vous dire. Il y a Scrapidou qui dit, est-ce que quelqu'un est là depuis le début ? Pile derrière moi, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un visage féminin là, un peu caché, pourtant je ne suis pas très grand. Il y a Véronique. Véronique, hein, juste derrière moi, c'est la rédactrice en chef des questions, c'est la boss des questions. Voilà. Et je crois que Véronique, je crois qu'elle est là depuis le début. Ou quasiment depuis le début. Voilà. C'est la boss des questions, donc c'est elle qui chapeaute le travail des 12 rédacteurs, rédactrices dont je vous parlais, et qui est là, alors à chaque enregistrement d'émission, du début à la fin, et qui est, que j'ai à l'oreillette, et qui valide la qualité des réponses, en fait. Voilà. Donc, j'ai un code couleur, pour tout vous dire. J'ai un vert. Bon, Véro me dit bonne réponse, voilà. Comme ça, on est deux et même plusieurs, parce que Laurent aussi, le producteur, écoute chaque seconde de l'émission. Donc on valide à plusieurs, mais c'est Véro qui valide. Vert pour valider, rouge, mauvaise réponse. Orange. Ah, j'ai un orange aussi. À votre avis, orange, c'est quoi ? Donc question pour un champion. On fait 6 émissions par jour, Nataz. Combien, à votre avis, vous êtes trop fort, précisé, ouais, c'est précisé. Quand la réponse est pas loin d'être bonne, mais qu'elle n'est pas complète. Voilà, précisé. Ouais, c'est trop fort. Okay. Et donc, Véronique, bon, bah voilà, c'est. Voilà. Elle incarne la rigueur et la passion de. Rigueur dans l'écriture des questions, la construction des épisodes et passion pour la culture, la connaissance, quoi. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Question pour un champion. Reprise aujourd'hui, et puis je crois que ça se voit. Je suis assez content, j'ai mon petit sourire de bonnet là, vous avez le plateau de questions pour un champion là. À gauche vous avez mon petit pupitre là, je pense que c'est une vue qu'on voit jamais à la télé, vous voyez, j'ai un petit pupitre à gauche là, dessus j'ai un espèce d'écran d'ordinateur qu'on appelle le privatif, sur lequel j'ai le nom des candidats, les scores, l'évolution des scores en direct, le nombre de points sur la prochaine question, qui a la main, gauche, droite, il y a des systèmes de flèches, tout ça. Voilà, un petit ordinateur, quoi. Puis là, j'ai en plus le bordel, j'ai des fiches de partout, là. En fait, c'est pas tant le bordel que ça. J'ai d'un côté les fiches du 9 points gagnant, les thèmes du 4 à la suite qui sont prêts, les 4 thèmes, dont le thème mystère. J'ai le mug, voilà, le mug jaune, la question pour un champion. Dessous, il y a les questions du jeu décisif pour départager les candidats qui sont ex aequo au 4 à la suite. Et puis, les questions du face-à-face, on me les amène un peu plus tard. On me les amène au face-à-face, c'est pas une grande surprise. Voilà. Les émissions sont diffusées combien de temps après le tournage ? Ça dépend. Parfois, on peut avoir énormément d'avance, jusqu'à 2 ou 3 mois d'avance. Parfois, on a une semaine d'avance. Ça dépend du moment, de l'année, quoi. Voilà. Est-ce que je préfère avec ou sans public ? Je vais vous choquer, mais je et on préfère sans public. On a supprimé le public pendant la crise sanitaire pour des raisons évidentes. Et en fait, on s'est rendu compte que les candidats adoraient, kiffaient, parce que du coup, il n'y avait pas de public et c'était beaucoup plus calme. Ils se concentraient beaucoup mieux, ils n'étaient pas perturbés par le bruit, les discussions parfois dans le public, la pression même des proches qui étaient là, voilà. Et en fait ils adorent l'ambiance, ils entendent beaucoup mieux les questions, j'entends mieux, beaucoup mieux les réponses, et étonnamment, non seulement les audiences n'ont pas baissé quand on a enlevé le public, mais elles ont continué à monter. Alors du coup, bah, on s'est dit, si ça plaît à tout le monde, bon, bah, on n'a pas remis le public. On n'a pas remis le public. Voilà. Le plateau est démonté après chaque période de tournage, ça dépend des plateaux. Là, on vient de déménager. Quand j'ai débuté l'émission, on était à dans l'Est, là. On était à... Attends, j'ai fait au moins 3 ans. Je connais que ça. À l'Est, Nord-Est. Non. Oh, J'allais en courant. Ça vous aide vachement. Après Stalingrad. Qu'est-ce qu'il y a par là? Non, Saint-Cloud, c'est à l'ouest, Julot. À l'est. À l'est. À l'est. Plaine-Saint-Denis, c'est au nord. Pré-Saint-Gervais. Merci, David. Oh, merci. On était au Pré-Saint-Gervais. Voilà. C'était cool. C'était comme une petite maison studio. C'était rigolo. On y a fait, je sais pas, la louche 3 ans. Après, on est arrivé à Saint-Cloud, dans des studios qu'appartenait à la France Télévisions. Et là, on vient de déménager. Et là, on est en la plaine Saint-Denis. Vous savez, c'est un endroit bon, qui n'est pas très glamour, je trouve. Hein, c'est des grands entrepôts qui sont tous autant d'immenses studios de télé. J'ai l'impression que 80% des grosses émissions nationales se tournent à Saint-Cloud. C'est là qu'il y a d'énormes studios, d'énormes entrepôts. Donc, on est arrivé là. Ce matin, on a fait notre premières émissions là-bas. Et en fait, c'était cool. Je trouvais que on était plutôt bien. Alors, on est au studio 130, je crois. Si je veux être précis. Et j'ai une très grande loge. Voilà. J'ai une loge, je peux faire un footing dedans. Donc je suis très content. Voilà. Voilà. Voilà pour question pour un champion. Allez, je veux pas abuser de votre temps. 22 minutes. Allez, je prends encore deux questions sur question pour un champion. Je vous montre le visuel pour l'hebdo et on commence cette petite revue de presse du soir. Panda Nirio, merci beaucoup pour le 17e mois d'abonnement. The Sous Alex pour le 3e mois. Stack95 pour le Prime. Tangerine Nightmare, j'avais vu. Merci pour l'abonnement que tu as offert à la Commu. The Voyageur, merci pour les beats. Yomi Envy pour le 12e mois d'abonnement. Pardon, j'avais pas vu tous ces subs. Minou, Maître Bacchus, encore merci. Alors, encore une ou deux questions sur question pour un champion. J'ai pas mis le bon. Où est-ce que je suis? Bah oui, il faut que je me mette là. La belle équipe. MGCTF, combien de temps en ce moment entre l'inscription et la sélection? L'inscription, la sélection, la sélection, le tournage, il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui se font convoquer 2 ou 3 mois ou quelques semaines après une inscription, une sélection. Et parfois, c'est 2 ans. Il n'y a pas de règles, je sais, c'est un peu mystérieux, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc je connais des gens qui attendent depuis 2-3 ans et parfois c'est plus rapide quoi. Tazio qui me dit niveau revue de presse, j'ai parlé de vous dans ma chronique ce matin sur le Move. Tazio, tu bosses au Move, trop cool. Merci, c'est super gentil. Enfin, si t'en as dit du bien, bien sûr. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Est-ce que vous y avez déjà eu, vous êtes plusieurs à poser cette question, donc j'y réponds et après je passe à l'hebdo Étienne. Est-ce que vous avez déjà eu, me dit 77 de Tsubasa, eu affaire à un candidat désagréable? C'est super rare. En 7 années de questions pour un champion, j'ai un mauvais souvenir. Voilà, parfois. Bah, il y a peut-être eu 2, 3 autres candidats qui étaient un peu. Ça arrive, hein. C'est des hommes, des femmes, voilà. Ouais, c'est l'histoire du gendarme. J'aime bien les gendarmes pourtant, mais c'est vrai que c'était un gendarme. Et qui était vraiment super désagréable. Ouais, c'est arrivé une fois, c'était un petit peu au début d'ailleurs. Mais c'est rarissime, quoi. Voilà. Ils sont pas filtrés au casting, les pénibles, demande Aljigando. Bah si, normalement. C'est un peu le travail des casteurs, quoi. S'il y a des gens qui viennent pas dans le plaisir, dans l'échange, tu vois, pour. Ah si, on avait un autre qui était fou aussi, putain, ouais. Ah ouais, qui était insupportable avec les autres candidats. Ah ouais, qui était désagréable et tout. Ah ouais, il avait un comportement chelou. Ouais, si, j'ai un autre souvenir. Mais c'est rarissime, quoi. Là, sur les pff, je sais pas avec combien de candidats j'ai joué. C'est rarissime, quoi. Voilà. Alors juste l'anecdote sur le deuxième dont je viens de me souvenir, là, comment ça pénible? Bah, c'était le genre de mec, quand il avait la bonne réponse, tu vois, genre, hop, il buzzait super vite, et au lieu de me donner la bonne réponse, tu vois, il regardait le candidat à côté, tu vois, genre un peu méprisant, quoi, tu vois, mais vraiment c'était fou, quoi, hop, genre, et il me regardait, et puis il plissait un peu les yeux comme ça, et puis il donnait la bonne réponse, comme ça, genre, tu vois. Et plein de comportements comme ça, quoi. Hyper chelou, hyper bizarre, quoi. Et plein de tics comme ça, super. Oh, putain, le mec, il était chef d'entreprise. Je me disais, mais pauvre employé, quoi. Voilà. Je sais pas, il a un truc oh, super chelou, quoi. Voilà. Est-ce que ça arrive d'enregistrer les épisodes et pas de les diffuser? Ah bah non, jamais, jamais. Non, on essaie de jouer des candidats cool, les questions sont top, non, jamais, on diffuse toujours. Voilà. Bon, les amis, pardon de vous embêter avec ça, mais bon, j'avais beaucoup de plaisir à retrouver l'équipe. Deux questions pour un champion. Inbido, merci pour le Prime. Et maintenant, juste rapidement, je vous montre la petite line-up dont je suis assez fier pour l'Hebdo Étienne, le numéro 2 de la deuxième saison. On revient sur l'actu de la semaine avec des gens formidables tous les vendredis soirs à 20h. Et bim, vendredi soir, 20h, ici même, à quelques mètres ici. Dans le studio, on reçoit le retour, mesdames et messieurs, de Monsieur Poulpe. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce qui me fait marrer. Je suis tellement content d'avoir à la maison. Le retour de Monsieur Poulpe, la grande première dans l'hebdo Étienne de Manon Mella. Voilà. Alors normalement, Manon Mella, si vous vous intéressez à l'info, si vous vous intéressez à Twitch, vous connaissez Manon Mella. C'est une journaliste de France Info, la radio, qui l'an dernier a animé tous les soirs du lundi au vendredi à 18h. Un stream sur la chaîne Twitch de France Info, la radio. Voilà, un stream autour de l'actualité. Voilà, je crois que ça a été du super boulot. Je crois que ça se poursuit pas sous cette forme. Manon nous en parlera d'ailleurs. Donc moi, ça m'intéresse parce que c'est une journaliste. Elle est passionnée d'info. Elle connaît très très bien Twitch. Ouais, ils sont pas très très nombreux, les journalistes, à bien connaître Twitch. Et puis, elle va peut-être nous parler un petit peu des projets de Radio France, puisqu'on parle de France Info, la radio. En matière de stream, parce que c'est pas très très clair, voilà. Donc ça m'intéresse. Jean Massier, c'est simple, c'est l'invité que j'ai le plus reçu l'an dernier, je dirais au moins 5 fois dans l'année, voilà, pour des raisons évidentes, on s'intéresse un peu à les mêmes choses, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Arnaud de Samer, le comédien, l'humoriste, et d'ailleurs j'ai pas fait exprès, mais on a 4 streamers. Ah ouais, parce que Arnaud de Samer, il stream. Jean Massier, il casse Twitch. Manon Mella, elle a streamé quasiment tous les jours pendant un an pour France Info. Voilà. Et Monsieur Poulpe, c'est plein de choses. C'est un humoriste, c'est un dingue, j'adore. C'est un comédien et c'est un streamer. Pas mal, non? Hein? Elle est pas belle, ma line-up? Est-ce qu'elle est pas belle? Merci Manuel 27 pour le 17e mois d'abonnement. Elle est pas belle? Salut Sainte-Justine. On est très heureux de t'avoir avec nous. Salut à toi. J'adore ton message. Ouais, c'est moi qui les contacte directement. Ah bah c'est fait maison, hein. c'est du stream, hein. Donc c'est voilà le choix des thèmes, l'animation, bon bah c'est Bibi, la programmation, c'est-à-dire que chacun des invités que vous voyez dans l'hebdo Étienne, dans mes différentes émissions, dans Ça me plaît, etc. C'est une envie que j'ai. D'abord, c'est des gens que j'ai envie de faire venir, des gens que j'aime bien en général. Hein. Pas en général, toujours d'ailleurs, j'invite que des gens que j'aime bien. C'est l'avantage de faire un truc chez soi. Quand on est journaliste dans une rédaction en télé ou en radio, bon bah on reçoit qui on reçoit. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des choix qu'on fait forcément. On peut en faire, mais pas toujours. Là, à la maison, on reçoit que des gens qu'on aime bien. Enfin, voilà, 100% des gens que j'ai reçus sur Twitch, c'est des gens pour qui j'avais une curiosité, dont je me disais que c'était des personnes qui avaient des trucs sympas à partager avec nous, quoi. Donc oui, c'est moi qui fais la prog, c'est super important. Et d'ailleurs, jamais je laisserai quelqu'un faire la programmation à ma place, parce que justement, c'est plus qu'un job, c'est un truc, voilà, c'est un truc perso, quoi. Voilà. Donc, voilà. Là, je sens que ça va être une super émission, et tout. Ouais, je crois que ça va être bien. Ouais. Il y a Bruno Solo qui arrive aussi, je crois que c'est la semaine prochaine. Ouais. Elle est belle, hein, la line-up. Voilà. Ouais. Je comprends pas trop le message. Il y a Jacques Brelan 06 qui je vois que tu t'es déjà pris 3 bannissements, 3 bannes. J'ai vos historiques. Parfois je vois un message bizarre, je clique rapide, je fais oula, je vois que les modos t'ont à l'œil. Donc il y a Jacques Brelan qui dit: Samuel, mes espions ont réalisé que tu avais 16 millions d'euros peut-être, hein, je ne sais pas, ou de roubles d'argent disponible. Comment peux-tu faire le vrai alors même que tu es millionnaire? Jacques Brelan, tes infos sont totalement erronées. Je n'ai pas une fortune de 16 millions d'euros. Voilà. C'est au bas mot le double, hein. C'est au bas mot 32 millions, au bas mot. Voilà. Donc, alors comment j'arrive à faire le vrai, d'autre expression, malgré ces 32 millions d'euros, bah, je ne sais pas. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. J'ai dit millions, c'était milliards. C'est 32 milliards, pardon, excusez-moi. Parfois je. De rien. On me dit bravo pour votre honnêteté, monsieur Étienne. Aucun problème. Aucun problème. Ouais. Sans compter les châteaux en Espagne. Tout à fait. Tout à fait. Cool. Cet homme peut rembourser la tête française, sachez-le, j'adore. Bon voilà, ça c'est la line-up de vendredi. Et puis, haha, est-ce que je vais... Merci Gérard 14 pour le 13e mois d'abonnement. Merci Manuel 27 à nouveau pour le 17e mois. In Bilo, merci pour le Prime. Est-ce que je vais maintenant... Il y a Jack Brelan qui n'a pas pris sa camomille et qui... Et alors Jack Brelan comme au poker, donc qui relance comme au poker. Donc Jack Brelan, t'es un gros riche qui méprise les vrais vivants du milieu rural. Tous mes grands-parents étaient agriculteurs, petits agriculteurs bretons, des petites exploitations, donc le mépris rural je connais bien. Je t'insulte de fils de pute, mec, je te prends en face, parisien, voué, affronter la vraie campagne devient drapaté. Je pense qu'à ce niveau c'est de l'humour. Je pense qu'à ce niveau, on est sur du second degré. Ce n'est pas possible. Je pense que là, je pense que les bannes, c'était une méprise. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est sur une forme d'humour. Une forme particulière, mais une forme d'humour. Je pense que on ne peut pas être premier degré à ce niveau-là. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il le dit, c'est de l'humour. J'ai voulu me faire lire, je m'excuse. Voilà. Voilà, vous voyez qu'il ne faut pas s'énerver. Les gens disent, ah, il est fou, il est agressif. Pas du tout. Voilà, on est dans l'humour, c'est une forme d'humour. C'est une forme d'humour. Voilà. Ronald, merci pour le 3e mois d'abonnement. Et Cléo, merci pour le 5e mois d'abonnement. Oui, mais chacun a son humour, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il vient de le dire d'ailleurs. Hein? Ok. Merci tonton Léon, j'ai envie de dire, pour le 11e mois d'abonnement. Eh bien, formidable, Alexandra, merci pour toutes ces infos. Mais je comprends, mais Jacques Brelan, mais on a tous nos petits soucis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tifoc, il y a TikTok, il y a Tifoc dans le chat qui vient de lâcher un 7e mois d'abonnement, un pas de plus vers les 33 milliards. Yes! Merci à toi. Bon, est-ce que vous avez envie qu'on parle un petit peu d'actualité, que je vous montre les journaux que j'ai lis ce matin et qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe en direct au live, du côté par exemple justement de cette initiative politique qui se passe en ce moment même, puisque le président Macron, à partir de 15h, devrait recevoir tous les responsables politiques français des principaux partis dans différentes tables rondes. C'était un peu flou, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Il y avait un dîner qui était prévu, mais on ne savait pas si tous les responsables politiques allaient rester ou pas. Donc on va aller voir ça en direct. Je vous ai mis quelques articles là-dessus. Je vous parlais de Jean-Marc Morandini aussi, une nouvelle condamnation. On parlera un petit peu d'Ubisoft. Il y avait un article dans les Échos ce matin sur Ubisoft qui reprend du poil de la bête. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai un yes? Est-ce que j'ai un go? Oh, formidable. Ok. Bon, bah, il a parlé. Ah, on me dit qu'il y aura peut-être des... Alors, le Gabon, je n'ai rien dans les journaux. Ils sont sortis après. Mais on va essayer de trouver un article de qualité sur le Gabon, puisque vous m'en parlez beaucoup. Ouais. Sachant qu'il y en aura dans les journaux demain matin. Je vais peut-être streamer demain soir. Alors, question, les amis. Le jeudi soir, c'est backseat. Moi, je ne stream pas en face des amis. C'est un peu con, mais... Des règles comme ça, je ne stream pas trop en face des amis. Enfin, je crois même que je ne stream pas en face des amis. Est-ce que Jean fait sa rentrée? Est-ce qu'il y a backseat demain? Alors, on me dit que c'est pas cette semaine. On me dit que ça reprend le 15. Ah, bah alors, le 15? Ah, bah c'est bon alors. Ok, bon, on stream. Ok, d'accord. Super. Ah, le 9 ou le 15? Ok. Ok, super. Bon, on y va alors. Je vais peut-être streamer demain alors. Alors, le bonheur est quand même dans les commentaires. Bah. Pourquoi il a... J'ai pas compris pourquoi Ju3449 a été banni. Ah, c'est moi qui t'ai banni. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Le con. Excuse-moi. Je dis, mais pourquoi vous l'avez... Je suis en train de regarder son historique. Pourquoi vous l'avez banni, Ju? En fait, c'est moi qui t'ai ban. Comment je te ban? Je sais plus. Annuler le bannissement. Pourquoi tu l'as. Qui a banni ah, c'est moi en fait. Le vieux sur Twitch. Mais enfin, les modos. Pourquoi vous avez banni Ah, bah, c'est moi en fait. Qu'il est con, qu'il est con. Ce voyageur, merci pour l'abonnement offert à la commu. Merci beaucoup. Mais oui, le ban est beaucoup trop facilement cliquable, bien sûr, Dragon Wild. Exactement. Exactement. On va remercier les modos quand même, parce que 21h30, c'est adorable. Bro, vous êtes formidable. Brobo06, Julo18, MMG7F, Original Pimousse. Et je salue l'ami Pépipin qui peut-être nous regarde. Allez, let's go. Bon, allez, on va d'abord parler de ça. D'ailleurs, je vais vous faire un sommaire express, mais express, parce que vous allez voir, je veux pas évoquer 1000 infos ce soir. Je vais beaucoup vous parler parce que la politique, ça n'est pas toujours passionnant, mais pour le coup, c'est une initiative qui fait parler dans le Landerneau, et je trouve qu'il y a des choses à raconter là-dessus, sur cette initiative politique qui est en cours, le président Macron qui a invité les principaux responsables politiques du pays et qui ont accepté de venir discuter des tables rondes, un dîner, et pour essayer de trouver un accord pour des textes de loi, des projets de loi, voire des référendums. Qu'est-ce qui va sortir de ça? C'est en cours. On va voir s'il n'y a pas un petit article qui est déjà sorti, s'il y a eu des fuites. Normalement, tous les téléphones devaient être éteints, il devait y avoir un brouillage, comme pour une rencontre diplomatique. C'était exactement, Coltem, c'était à huis clos. Normalement, le président Macron devait être seul, a priori, même pas entouré de conseillers, de blablabla, de blablabla. Voilà. Et c'était vraiment contre eux, quoi. Voilà. Donc, on va voir quand même s'il y a des fuites. Peut-être qu'il n'y a pas de fuite du tout. Auquel cas je vous lirai les articles qui sont parus ce matin. Ok, on va voir s'il y a des fuites. Let's go. Alors, est-ce qu'on pourrait Macron, un petit Macron, un petit crible Macron actualité, ça peut le faire. On va faire un petit crible actu et on va essayer de trouver une source de qualité. C'est parti. Alors, là, j'ai un papier de France Info il y a une heure, par exemple, on peut aller voir. Voilà, vous voyez déjà certains des titres. Acte politique ou coup de com' à Saint-Denis, cette histoire. Voilà. Les discussions avec les chefs de parti ont commencé. Bon, bah, ça, jusque-là, pas trop de surprise. J'ai l'impression que ça ne fuite pas beaucoup. Hein. Allons voir si France Info a des infos. Rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti, Olivier Faure, donc c'est le secrétaire national du Parti Socialiste, dit qu'il n'est pas dupe sur l'opération de communication. Mais ça, c'est une déclaration avant, pas après. Ok. Donc là, ça répète les infos que je vous donnais. La rencontre au sommet devait débuter à 15h, se tiendra à huis clos. Ça, c'est assez étonnant, hein. Entre le président et les chefs de parti réunis autour d'une table, un format inédit selon l'entourage du chef de l'État, je n'ai pas souvenir. Et pourtant, je suis un vieux machin. Je n'ai pas souvenir, effectivement, d'un truc comme ça. C'est-à-dire qu'un président de la République qui réunit autour de lui tous les responsables des principaux partis politiques, juste eux comme ça pour discuter. Je n'ai pas souvenir de ça. Sous la cinquième, regardez, aucun collaborateur ne sera présent. Aucun dispositif n'est prévu pour la presse. Normalement, il ne devrait même pas y avoir de communiqué ou d'allocution. Le programme du jour, deux tables rondes sur la situation internationale, la réforme institutionnelle, suivie d'un dîner, donc c'est là, c'est en ce moment, hein, autour de toutes les questions posées par les récentes émeutes urbaines, école, autorité, intégration, inégalité, c'est ce qu'a indiqué l'Élysée. Tous les partis invités seront présents, donc il y avait suspense ces derniers jours sur LFI, mais a priori, ils sont allés. Tous les chefs des partis représentés au Parlement ont accepté l'invitation, mais chacun y va avec ses priorités, c'est ce qu'on va voir ce matin. Pardon, des formations professionnelles ce soir. Ok, notamment l'extrême droite qui veut qu'on pose sous forme de référendum une question sur l'immigration. Quelle surprise, voilà. Donc on n'a pas d'infos, hein. Mais c'est ce qu'était. On n'a pas le menu du dîner, Camille, arrêtez de me poser des questions sur le menu du dîner, on s'en fout. Hein. Qui me dit, est-ce que Zemmour a été invité? Me dit Master Singe, a priori je dirais non. Parce que l'invitation a été lancée aux responsables des principaux partis politiques du pays. par gentillesse, je ne vais pas rappeler le score d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle ou législative. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'ils s'inscrivent dans la définition principaux partis politiques du pays, quoi. Voilà. Donc, non. Alors, vous êtes pas sympa de rappeler. J'ai dit que je ne rappelais pas le score. Donc, je ne rappellerai pas que Éric Zemmour a fait 7% au premier tour de la présidentielle et qu'il a eu zéro député. N'insistez pas, je ne le dirai pas. Voilà. Non, 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 non. Ah non, 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 je ne le dirai pas. Non, 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 c'est pas très charitable. John Ceintura, merci pour le 18e mois d'abonnement. Phil ou non, merci pour le 12e mois d'abonnement. Non, non, je ne le dirai pas. Alors, lisons tous les papiers, moi aussi, qui cachent le thème. Sur cette réunion, vous allez voir que les journaux sont un peu intrigués par cette histoire. En quête de consensus, Macron convoque les partis, c'est la une du Figaro. Voilà, donc le regard du Figaro là-dessus. L'opinion, que je ne vous ai pas lu depuis longtemps, s'intéresse aussi à ça en disant waouh, ça peut être super cool. Puis en fait, on sera peut-être déçu. Hein. Globalement, c'est un peu le scepticisme, hein, vous allez voir, qui est mis en avant. Par les politiques et par les journaux sur cette histoire. Macron, Libération, c'est les patrons du c'est les meilleurs sur le titre. Hein. Macron veut en venir aux mains tendues. Alors c'est beau, aux mains tendues. Voilà. Et puis après, on partira sur Jean-Marc Morandini, à nouveau condamné. Voilà. Mais pourtant, qui reste sur l'antenne de CNews. Et puis un petit papier sur Ubisoft qui reprend du poil de la bête. Vous allez me dire, c'est tout ? Oui. Ce matin, j'ai lu tous les journaux. Et en vrai, il n'y a que ça qui m'a vraiment hypé, intéressé. Alors qu'il y a plein d'autres trucs. C'était ma petite sélection du matin. Mais on va aller voir sur Internet d'autres trucs. Et notamment, on va aller voir peut-être un petit peu des articles sur le Gabon. Je vous propose qu'entre la politique et puis Morandini, on ira voir un petit peu ce qui se passe au Gabon. Je vous avoue que je le découvrirai avec vous parce que j'étais en tournage toute la journée et je n'ai pas pu me pencher sur cette actualité. Bien sûr qu'on fera un horoscope El Giganto, on ira le chercher. On ira le chercher. Sophie K59, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 15e mois d'abonnement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'initiative politique souhaitée par le président Macron ? En quête de consensus, Macron convoque les partis. Le président de la République a donc convié à Saint-Denis ce mercredi tous les partis représentés au Parlement pour tenter d'établir un dialogue et trouver des accords ponctuels. Quelqu'un me demandait est-ce que Éric Zemmour est invité ? Non, puisqu'il n'a aucun député. Et donc, il n'est absolument pas représenté au Parlement. Vous avez la réponse. Fly, merci pour le 3e mois d'abonnement. À la recherche d'un improbable consensus, Emmanuel Macron a convié donc aujourd'hui tous les chefs de parti à Saint-Denis. Le président s'en remettra une nouvelle fois, écrit le Figaro, aux oppositions pour faire émerger une unité loin d'être évidente. L'objectif non avoué de cette réunion restant malgré tout la relance de ce second quinquennat, reçu collectivement à 15h. Ça a débuté à 15h. Les 11 chefs de parti, la première ministre ainsi que les présidents des deux chambres, donc Assemblée et Sénat, échangeront à bâton rompu avec le chef de l'État. La quête d'une coalition ne sera vraisemblablement plus au menu. Hein, c'est vrai que pendant le début de ce quinquennat, le président Macron, qui n'a donc pas réussi à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée à l'issue des législatives, en même temps, pardon, c'est un peu de sa faute, à un moment il faut dire les termes. Le président Macron ne s'est pas beaucoup impliqué dans cette campagne législative pour des raisons que je trouve un peu mystérieuses. Bon, il n'a pas eu de majorité et du coup son quinquennat est quand même extrêmement compliqué politiquement. C'est-à-dire comment mettre en œuvre, faire voter des textes quand tu n'as pas de majorité absolue à l'Assemblée, bah, du coup tu as le 49-3, c'est un peu chaud, quoi. Donc dans un premier temps, il a essayé de trouver des coalitions. Il y a Jacques Bourdon, notre ami qui est foufou, j'adore. Notamment avec la droite, avec LR, avec les Républicains. Et puis, ça n'a pas marché jusqu'ici. Les Républicains n'ont jamais dit yes à la coalition. Donc là, le Figaro nous dit qu'on est au-delà de ça. La quête d'une coalition ne sera vraisemblablement plus au menu. Il s'agira plutôt de trouver des accords au cas par cas, sur un texte, sur une réforme. Janvier, on va parler du Gabon tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, les oppositions ont émis de fortes réserves sur les débouchés politiques de cette initiative. Voilà. On va lire l'édito d'Yves Tréhard. Je m'étais allumé un petit ventilo là pour avoir du frais, mais en fait il fait frais. Et plutôt que me niquer la gorge pour question pour un champion de demain, je vais l'éteindre. Ne bougez pas, les amis. Je vous surveille. Hein. Jacques Brelan, je te regarde. Hein. Demain, on a quelques centaines de questions à poser. Autant rester frais. Illusion démocratique. Bon, bah voilà ce que pense Yves Tréhard du Figaro de ce truc. Autant dire qu'il n'est pas super convaincu. De quoi cette initiative lancée au cœur de l'été par le chef de l'État est-elle surtout le signe? On va rappeler qu'au début de l'été, le président Macron avait annoncé une grande initiative politique. Bah, elle est là. Alors, de quoi est-ce le signe? Pour Yves Tréhard, d'un pouvoir exécutif en quête d'oxygène, qui tâtonne, qui cherche désespérément une solution à son absence de majorité, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Quand il est arrivé à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron avait promis l'émergence d'un nouveau monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, hors des partis traditionnels, avec de nouveaux visages et usages, c'était une nouvelle façon de faire la politique, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au début du premier quinquennat. 6 ans plus tard, en dépit de sa réélection, le constat ne peut être que sévère, estime Yves Tréhard. Certes, le paysage politique est complètement chamboulé, ça c'est vrai, mais les piliers de sa recomposition semblent introuvables. En gros, c'est le bordel et on n'a pas reconstruit quelque chose là-dessus, quoi. Le président de la République n'a pourtant pas ménagé sa peine devant les obstacles. Il y a eu le grand débat, vous vous souvenez sûrement, pour éteindre la fièvre des gilets jaunes, la tenue de 2 conventions citoyennes, l'une sur l'écologie et l'autre sur la fin de vie. Il y a eu un Conseil national de la refondation chargé de récolter les doléances des Français sur plusieurs sujets. Autant d'opérations aux appellations ronflantes qui ont fait pchit. Pas toutes de la même manière. D'ailleurs, là, je trouve que Yves Tréhard résume un peu vite. On est d'accord que la Convention citoyenne sur l'écologie, le président Macron avait promis un peu imprudemment de reprendre à son compte toutes les propositions de la Convention citoyenne sur l'environnement. Et en fait, il n'a rien repris quasiment. Voilà. Donc ça, on peut dire qu'effectivement, c'était pas terrible. La Convention citoyenne sur la fin de vie, tout le monde s'accorde à dire que ça a été un super travail. La Convention citoyenne sur la réflexion sur la fin de vie en France, tout le monde s'accorde à dire que ça a été un super travail et qui va, on l'espère, servir de base à une évolution de la loi sur la question. Voilà. Donc ça, c'est un peu tôt pour parler d'un pchit, je trouve. Petite orange, petite citron, ça c'est un autre sujet. Le Conseil national de la refondation chargé de récolter les doléances des Français sur plusieurs sujets. Bon, là, oh, d'accord, la pchit, ok. Là, d'accord. Alors, la question, c'est cette autre façon de faire de la politique, là, cette initiative qui, vous le verrez, c'est évoqué par certains journaux ce matin, est assez novatrice, quoi. D'ailleurs, normalement, on peut passer son temps à critiquer la façon dont le président Macron fait de la politique et dirige le pays. D'ailleurs, et dans une démocratie, c'est sain, d'ailleurs, c'est très très bien que les citoyens puissent critiquer, au contraire. Mais de temps en temps, on peut dire que bah, y a des trucs qui ne sont pas inintéressants. Là, par exemple, c'est assez novateur. Ça ne va peut-être rien donner, mais c'est assez nouveau quand même. Un président qui appelle tous les responsables de l'opposition à échanger, à discuter. Voilà. Est-ce qu'il y a des arrière-pensées? Est-ce qu'il y a du calcul? Est-ce que ça ne va rien donner? Mais en tout cas, c'est plutôt nouveau. Voilà. Sauf si, dans le chat, quelqu'un arrive à me rappeler que sous la 5e, un autre président, De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Chirac, j'espère que j'oublie personne, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, Macron, l'a fait. Je ne crois pas. Fin de l'édito de M. Yves Tréhard. Pour donner une réelle portée à son initiative politique d'ampleur, Emmanuel Macron dispose de quelques armes, non factices celles-ci. Le remaniement complète son gouvernement avec un Premier ministre n'émanant pas de sa majorité en est une. L'organisation d'un référendum sur l'immigration, par exemple, en serait une autre. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur la fin de cet édito. C'est intéressant parce que, donc, en gros, Yves Tréhard dit que ce truc va faire pchit comme le reste. Et il dit, si vraiment il veut faire de la politique autrement, eh bien, il peut faire ça. Il peut changer totalement son gouvernement, faire un remaniement avec un Premier ministre n'émanant pas de sa majorité. Comprenez, dans la bouche, sous la plume d'Yves Tréhard, un Premier ministre venant vraiment des rangs de la droite, de LR, quoi. Je ne pense pas que Yves Tréhard ait envie de voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon, je ne crois pas. Et puis, il parle d'un référendum, et j'adore ce qu'il dit, sur l'immigration, par exemple. c'est pas gentil de rire, mais... bon, arrête de rire bêtement, Samuel Etienne. Bon, il se trouve que c'est une demande récurrente du Rassemblement National, par exemple. c'est de faire un référendum sur cette question. Alors pour poser quelle question d'ailleurs, parce qu'un référendum c'est une question aux Français. Alors qu'est-ce quel, je voudrais bien savoir quelle question on pose aux Français sur l'immigration. Je ne veux même pas imaginer la question. Donc Yves Tréhard dit bon, on pourrait organiser un référendum sur l'immigration par exemple. Voilà. Bon, c'est assez intéressant quand même. Voilà. Après, c'est l'avis d'Yves Tréhard, c'est pas forcément l'avis de tous les journalistes du Figaro. Alors, du scepticisme, il y en a chez les journalistes, vous avez vu. Puis il y en a chez les présidents de parti aussi, nous explique le journal, qui du coup espèrent profiter de ce moment pour, un peu pour avancer leurs revendications. Lisons. Les chefs d'opposition formulent tour à tour leurs attentes nombreuses et divergentes. Bah oui, c'est normal. Majin Kyo, merci beaucoup pour cette deuxième année d'abonnement. Jordan Bardella, puisqu'on était à l'extrême droite, Acides TV, merci pour le 2 ans d'abonnement, c'est énorme. Excusez-moi, j'applaudis, 2 ans d'abonnement, c'est énorme. On reviendra sur le Gabon tout à l'heure. Donc Jordan Bardella a été le premier à ouvrir le bal. Il réclame dans ce cadre une consultation du peuple français. Ah, bah c'est ce que vient de demander Yves Tréhard. Avec deux conditions. Un, le contenu, il faut que ce soit sur la politique d'immigration. Okay. Deux, la date, il faut que ce référendum sur l'immigration en France se tienne le jour des élections européennes, c'est-à-dire le 9 juin 2024. Ça, c'est la demande du Rassemblement National. Les Républicains, qu'est-ce qu'ils veulent, la droite républicaine? Ils formulent une demande similaire. Ah, eux aussi, ils veulent décidément un référendum sur l'immigration. Ok. Mais sans exigence de calendrier. C'est la petite nuance. Le président LR Éric Ciotti veut faire face à la, dit-il, je cite, hein, à la submersion migratoire et réviser la Constitution, durcir les conditions d'accès à la nationalité, au regroupement familial ou encore fixer des plafonds d'admission dans notre pays. Autre sujet que LR et RN comptent aborder, le pouvoir d'achat, l'inflation, la dérive des finances publiques, dénoncé notamment par Éric Ciotti. Donc ça, c'est la droite. Je vous lis un petit peu et puis je vous dis ce que veut la gauche. Salut Tom Carcourt, comment ça va? Il y a des journalistes de qualité dans ce chat. Vous êtes plusieurs à souligner qu'un référendum sur l'immigration, c'est impossible sans réformer la Constitution. Je vous avoue que je dois creuser ce sujet, parce que de temps en temps, il faut reconnaître ses limites, et je n'ai plus ça en tête. Et je crois que je vais devoir travailler sur le sujet. Voilà. Je pense que si je pose la question à Jean Massier, vendredi soir, il nous le dira. Laissez-moi, il faudra que je bosse là-dessus. Les demandes de la droite, vous les avez, et de l'extrême droite. Les demandes de la gauche maintenant. Les partis de la gauche ont uni leurs plumes dans un même courrier, ce qui est assez intéressant parce que des tensions, des bisbilles à gauche, il y en a quelques-unes en ce moment. Et donc, Manuel Bompard pour LFI, Olivier Faure pour le PS, Fabien Roussel pour les communistes, Marine Tondelier pour les écologistes ont écrit ensemble au président Macron en se disant interloqués par les termes de cette lettre d'invitation. Merci beaucoup Loucoupter pour ce 3e mois d'abonnement. Je cite la lettre de la gauche au président. Vous y faites l'impasse sur l'immense blessure que vous avez infligée au pays en passant en force le retrait de la réforme des retraites à 64 ans, avant de réclamer eux aussi un référendum sur, bon, pas sur l'immigration, sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Imaginez le président Macron qui accède à la demande de la gauche de faire un référendum sur le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La NUPES fait aussi quelques propositions, notamment sur les difficultés de recrutement de l'éducation nationale, le coût de la vie étudiante, dont on a parlé ces derniers jours ensemble, et le prix de l'électricité et du carburant. Vous voyez. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que cette initiative, quoi qu'on en pense, stratagème politique arrière-pensée, coup d'épée dans l'eau, elle est novatrice. C'est assez nouveau. Qu'est-ce qui va en sortir ? D'un côté, vous avez un président qui est un peu flou, qui dit ben, « Venez, on va discuter. On va essayer de trouver des terrains d'entente pour mettre en avant des projets de loi, des référendums. » Mais ils sont d'accord sur rien. Et c'est normal, d'ailleurs. C'est le combat politique, quoi. Comment enfin, je comprends pas sur quel point le RN pourrait s'accorder avec LFI, avec la Macronie, bon. Mais bon, pourquoi pas, au nom de l'intérêt national. Bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait sortir de ça? Moi, j'attends avec impatience les sorties, les fuites, les déclarations des uns et des autres. Imaginez qu'il se passe quelque chose, quoi. Bah, on va voir. Bon, c'est toute la question. Justement, l'Opinion, le journal L'Opinion, veux-tu te rebrancher, toi, petite tablette? Bonne remarque. Il dit, c'est Mokbouk qui dit, bah, c'est pas le rôle du Parlement, ça? Bah, si, un peu. Si, un peu. L'Opinion nous fait un édito justement sur cette question-là. À quoi bon ce truc et qu'est-ce que ça peut donner? L'Opinion qui salue déjà que ce truc puisse se tenir. Que le président Macron, écrit le journal, par-delà les divisions, merci Interbel pour le prime, par-delà les invectives, par-delà les interminables polémiques, parvienne à rassembler aujourd'hui les pièces de l'échiquier politique est une petite prouesse. Je suis assez d'accord. Caractéristique de la capacité du chef de l'État à surprendre, à innover. C'est pas faux. La question c'est, et maintenant? Alors, l'Opinion dit, allez, soyons naïfs un moment, rêvons un peu. Soyons naïfs, rêvons un peu que parmi les nombreux sujets mis à la discussion, un embryon de consensus. Ah, ce serait beau ça. Émerge sur quelques-uns. Après tout, même si d'aucuns y ont vu avant tout un désaveu pour Emmanuel Macron, n'est-ce pas le sens de la majorité relative que les Français lui ont accordée en 2022? Ça, c'est intéressant. On revient aux législatives de 2022. Pourquoi les Français n'ont pas donné une majorité absolue au président Macron? Peut-être, c'est une analyse parmi d'autres. Peut-être parce que justement, il voulait les Français, je ne sais pas ce que vaut cette analyse, que bah, ce ne soit pas un seul camp qui ait le pouvoir, les manettes, mais plutôt qu'il y ait... un échange entre les différentes sensibilités, différents partis politiques, voilà. Et un débat donc qui se serait tenu normalement, comme le faisait remarquer quelqu'un d'ailleurs, au Parlement, à l'Assemblée. Quoi. On ne peut pas dire que les discussions, les échanges entre les différents partis politiques à l'Assemblée, au Parlement en France, soient extrêmement constructifs. Hein, on ne peut pas dire ça. Voilà. Mais rêvons un peu, dit l'Opinion, et si ça marchait? Et si se mettaient d'accord sur 2-3 trucs? Et un peu plus loin, le même édito dit « Hélas, la lucidité invite à la plus grande circonspection. Au sein de la majorité présidentielle, peu semble croire aux vertus de ce huis clos. Même scepticisme chez LR, avant même de débattre, la NUPES se dit « sans illusion ». Pour une gauche divisée, c'est même l'occasion de trouver un semblant d'unité, un air de déjà-vu. Vous voyez que même ceux qui essayent de rêver, hein, de donner sa chance au produit, ne croient pas trop à un truc positif qui puisse sortir de cette réunion. Je n'y crois pas non plus. Mais je ne demande qu'à être surpris. C'est ça qui est bien avec l'actualité. Alors, Le Figaro se penche sur cette actu. L'Opinion s'est penché sur cette actu. Libération également ce matin, avec un excellent titre. Macron veut en venir aux mains, mais aux mains tendues. Moi, je dis bravo. Je n'ai plus de café. Catastrophe. Je vais me faire un petit verre d'eau. En dépit de ce ton... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais vous lire dans cet article de Libé? Voilà. Déjà, Libé cite la lettre du président Macron envoyée aux différents responsables politiques. C'est une main tendue loyalement, dit-il. Il promet des traductions concrètes et rapides dans l'action gouvernementale, des textes législatifs qui seraient bâtis ensemble et même le cas échéant des référendums. Vous voyez? Parce que personne ne l'a inventé ce truc, c'est le président lui-même qui parle de textes législatifs co-construits et de référendums co-construits. Bon, c'est étonnant. Serait-ce cette piste qui a attendri les oppositions? Parce que finalement on peut se dire que c'est assez étonnant que tous les principaux partis aient accepté cette invitation, c'est vrai. Du côté de LFI, je sais qu'on a hésité par exemple. Le plan de table de la rencontre est inédit. Les présidents de parti ont déjà été reçus par le président en tête à tête, mais jamais tous ensemble. C'est une réunion à la loyale, à huis clos, sans communication à l'issue, sans image ni micro tendu. Il n'y aura pas de collaborateurs de l'Élysée sur place. Le but est de pouvoir mener un dialogue libre et sans posture. Voilà. Un peu plus loin, Libé écrit... c'est un ministre. Ah, c'est intéressant. Alors là, on est dans le calcul politique. Il y a un ministre qui dit, donc sous couvert de l'anonymat, ce qu'on appelle le off, il dit à Libé, je ne vois pas comment, à un moment donné, on se dispense d'un retour aux urnes. Comprenez, dissolution de l'Assemblée, nouvelle législative. Si d'aventure il avait besoin d'organiser de nouvelles élections, le président pourrait dire qu'il a tendu la main aux oppositions, mais a constaté le blocage. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. Dans la tête d'un ministre, ce truc serait un espèce de petit piège politique en mode « Bon, vous avez vu, hein, les Français, j'ai invité tous les partis politiques. On a essayé de se mettre d'accord. Ça n'a pas marché. La situation politique et institutionnelle est totalement bloquée. Oh là 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 là, c'est con, c'est ballot. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais dissoudre l'Assemblée. Comme ça, vous allez revoter. » Voilà. Après, il faut essayer d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée. Est-ce que ce truc, ce machin, ce bidule, cette initiative, la main tendue entre deux baffes, elle est pas mal involue, effectivement, à cette arrière-pensée-là, eh bien, on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Je vais pas vous emmener directement sur Morandini. On va juste aller voir, effectivement, s'il y avait quelques fuites de cette réunion qui se tient en ce moment même. J'ai l'impression que non. Hein. Regardez avec moi. Salut Sachi, on parle de la réunion en ce moment même du président Macron et des différents responsables politiques des principaux partis. Normalement, c'est à huis clos, rien ne doit fuiter. On est en train de surveiller là pour voir s'il y a des trucs qui sortent en fait. Ouais. Non. Pour l'instant, rien. Bon. Avant d'aller voir, de prendre des nouvelles de M. Jean-Marc Morandini, qui a été à nouveau condamné et pourtant maintenu à l'antenne sur CNews, moi je vous propose d'aller maintenant voir ce qui se passe du côté du Gabon, puisque a priori il y a eu un coup d'État. Je vais d'aller voir, parce que là je vous avoue que dans les journaux ce matin il n'y avait rien, hein, puisque les journaux n'avaient pas pu, par rapport au moment où ça s'est passé, le prendre en compte. Alors on va essayer de trouver un article, parce que sur Internet en revanche, ces mêmes journaux que je vous lis, eh bien, écrivent entre deux sorties papier, deux sorties print. On va essayer de trouver un article de qualité, une bonne source. Moi, je vois le Figaro, Libération. Ouais, c'est pas... Est-ce que Le Monde aurait fait un truc? Je vois des bonnes sources. Hein. Des sources... Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait un article de Libé qui racontait bien le truc. Le Parisien a écrit dessus. Il y a plein d'articles. Ah. Ok. Bon, j'aime bien. Bon, je vous avoue, j'aime bien Le Monde pour la rigueur dans sa présentation des faits. On pourrait partir avec un article du Monde, ce serait pas mal. Donc là, c'est un papier d'analyse sur les intérêts français, donc moi je préfère un sujet un peu, un truc un peu factuel. Ok. Ok. Ouais, moi je vais plutôt aller voir l'article de Libé qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Qui me semblait pas mal. Ici. RFI, ouais. Peut-être ça. Ah, peut-être ça. Excusez-moi. Hein. Alors là, vous voyez ce que je fais quand vous ne me voyez pas. C'est-à-dire que quand je bosse sur une info, je cherche, j'essaie de trouver des sources dont je sais à peu près la rigueur et de trouver les angles qui m'intéressent. Voilà. Ok. L'édito de Dove Alphonse. Alors Dove Alphonse, c'est un responsable de la direction de Libération, dont j'aime bien les éditos justement, qui a un regard en général assez clair sur les choses. Putsch au Gabon, la fin d'une dynastie sans partage. Je le découvre avec vous, hein, mais bon, j'ai assez confiance en la plume de Dove Alphonse. Le coup d'état militaire de ce mercredi 30 août pourrait voir se terminer le règne du clan Bongo, hein, qui a duré... Alors, je suis abonné à Libé, mais je suis pas connecté, parce que je me suis pas connecté là. J'espère que l'article n'est pas, sous abonnement, auquel cas il faudrait que je me connecte. Donc le clan Bongo, qui a duré avec Ali et son père Omar Bongo, plus de 50 ans, charge au nouveau pouvoir d'éviter les mêmes dérives. Que s'est-il passé? En Afrique, le pouvoir, ça se prend et ça ne se rend pas. Il y a eu pas mal de coups d'État ces derniers mois en Afrique. Omar Bongo nous a laissé quantité de petites phrases révélatrices. En plus d'un lapsus déclamé du patron de l'Élysée, dans l'économie gabonaise, la France occupe une place préoccupante, je voulais dire prépondérante. Voilà, installé au pouvoir par la France, donc on parle d'Omar Bongo, il aura régné sur le Gabon 42 ans, avant d'y installer tout naturellement son fils, Ali Bongo, il y a 14 ans, c'est vrai que tout ça semble extrêmement démocratique. Donc, coup d'État militaire à Libreville, aujourd'hui, mercredi 30 août, donc c'est bien pour ça qu'il n'y a rien dans la presse papier print, mais en revanche, ce sera dans vos journaux de demain, que je vous lirai peut-être demain soir après Question pour un champion. Donc, coup d'État militaire à Libreville ce mercredi 30 août pourrait donc mettre fin à près de 56 ans de règne sans partage d'une dynastie familiale sur un pays très riche en minéraux, en hydrocarbures, qui était loin d'en faire profiter équitablement tous ses citoyens, dont la plupart n'ont pas l'eau courante. Ceux appartenant à la famille Bongo, par contre, n'ont pas trop à se plaindre. La justice française a saisi jusqu'à aujourd'hui plus de 28 biens immobiliers de luxe en France qu'elle soupçonne d'avoir été achetés par les Bongo grâce au flot d'argent de la corruption menée par les majors du pétrole, y compris Total. Il serait donc étrange de s'étonner des scènes de liesse de la population gabonaise à la vue des militaires prenant le pouvoir, et Paris savait sans doute depuis longtemps à quoi s'en tenir. Avant d'aller plus loin, il y a un article, un lien là, je pense, sur le coup d'État militaire, donc le factuel, les faits, par Libé. Coup d'État au Gabon. Oui, il faut que je me connecte. Excusez-moi, il faut que je me connecte pour le lire. Alors, je ne vais pas vous montrer mes identifiants quand même. Voilà. Je vais chercher mes identifiants parce que, évidemment, quasiment pour chaque journal, j'ai des mots de passe différents. Bordel. Libé, alors quel est mon mot de passe pour Libé? Alors. Oui. Vous regardez pas, hein? Coquin. Oui, c'est à l'ancienne. Où est-ce que j'ai rangé ça? Putain, le vieux boomer, là, en train de chercher dans son carnet ses mots de passe. Oh, je suis grave. Oui, bah, vous moquez pas. Ah, c'est là. Ok. Donc, Libération. Il faut que je mette mes lunettes. Ok, beau gosse. Bon, c'est BG. BG 22-27. Okay. Alors. Ok. Alors, donc BG 22-27. Est-ce que ça marche? Ok, c'est bon. Nous avons accès, les amis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Coup d'État au Gabon. Qui est le général Brice Oligui Nguema, putschiste nommé président de la transition? Chef de la puissance garde républicaine, donc ce sont encore les militaires qui ont fait un coup d'État, comme souvent ces derniers mois, ces dernières années en Afrique. Ce haut gradé de l'armée gabonaise qui évolue autour du clan Bongo depuis des décennies. On ne peut pas dire que ce soit un nouvel acteur, hein, a été nommé président de la transition dans la soirée de mercredi. Il s'impose donc, ce général, comme le nouvel homme fort du Gabon, après le putsch militaire de ce mercredi, c'est aujourd'hui. Signe de la confusion, alors c'est drôle parce qu'il y a Psyl qui dit proche du président LOL, bah, c'est vrai que souvent c'est le cas en fait, souvent les putschs sont commis par des militaires qui sont pas très très éloignés du pouvoir, quoi. S'impose donc comme le nouvel homme fort du Gabon après le putsch militaire de ce mercredi. Signe de la confusion qui règne dans le pays, des premières rumeurs l'avaient d'abord donné arrêté, voire tué, avant qu'il n'apparaisse acclamé par les soldats sur une vidéo diffusée ce midi par la télévision d'État, juste après la lecture d'un communiqué annonçant le placement en résidence surveillée du président renversé Ali Bongo Ondimba. Largement relayé sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu ça aujourd'hui, filmé sous différents angles par des soldats, la scène montre le général Oligui avançant, uniforme vert foncé et bras levés, au milieu de ses hommes en treillis et s'écrivant « Oligui, président ». Depuis avril 2020, ce pilier sécuritaire du système Bongo, ex-aide de camp d'Omar Bongo, c'est quelqu'un qui est quand même issu du sérail du pouvoir, dirige la garde républicaine, l'unité militaire la plus puissante, la plus équipée du Gabon, qui est chargée de la protection du chef de l'État. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Non, ah bah c'est la scène que vient de nous décrire Libération. C'est le monsieur au milieu. Président,
Ok.
Voilà. Donc là, c'est image à la mi-journée a priori. Le général Brice Oligui Nguema a été joint par Le Monde, raconte Libération. Il a confirmé sa participation au coup d'État. En réaction, selon lui, pourquoi ce coup d'État ? Toujours intéressant. Des résultats officiels donnant une large victoire à Ali Bongo à l'issue de l'élection de ce week-end. Et le général déclare qu'il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La constitution a été bafouée. Le mode d'élection n'était pas bon. Donc l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Alors un petit portrait de ce général. Brice Oligui Nguema, fils d'un officier gabonais, rejoint très tôt la garde républicaine du Gabon. Après une formation à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il devient l'un des aides de camp du président Bongo. Le reste jusqu'à sa disparition en 2009. À l'arrivée d'Ali Bongo, donc le fils, au pouvoir, il est envoyé à l'étranger comme attaché militaire à l'ambassade du Gabon, au Maroc, puis au Sénégal. Il vit ça comme un exil. En 2019, il est colonel, il est rappelé au Gabon, il remplace un autre colonel à la tête du service de renseignement de la garde républicaine. Et en avril 2020, donc il y a 3 ans, il est promu à la tête de la garde républicaine. Alors que la famille Bongo s'est constituée à l'étranger, un patrimoine immobilier colossal qui vaut à 9 enfants du patriarche Omar Bongo une mise en examen en France dans l'affaire dite des biens mal acquis, le nouvel homme fort des putschistes qui évolue, et c'est ce que je me permettais de vous dire, mais confirmation ici, dans le sillage de la dynastie Bongo depuis des décennies, n'est pas exempt lui-même de tout soupçon d'enrichissement personnel, c'est intéressant. Selon une organisation américaine anticorruption, donc le général dont nous parlons là, aurait acheté en espèces entre 2015 et 2018 3 propriétés dans la banlieue de Washington aux États-Unis pour un montant supérieur à 1 million de dollars. Bon. Voilà. Et effectivement, il y a une information qui est tombée en soirée, là, 19h25. Brice Oligui Nguema, donc le général dont nous parlons, a été nommé président de la transition. Voilà. Nous revenons à l'article de Libération. Voilà. De tout à l'heure. Hop. Qui est ici. Donc c'est l'édito de Devalfon qui essaie de prendre un peu de recul et donner du sens à tout ça. Donc l'édito de Devalfon évoquait les scènes de liesse de la population gabonaise à la vue des militaires prenant le pouvoir. Vu comment les richesses du pays étaient extrêmement mal partagées entre certains qui s'accaparaient la caisse et un peuple qui vit dans la pauvreté. Paris savait sans doute depuis longtemps à quoi s'en tenir, écrit Libération. Après les élections de 2016, déjà, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, constatait sobrement que l'examen des recours n'avait pas permis de lever tous les doutes sur la réélection d'Ali Bongo. Paris a perdu au Gabon beaucoup de son influence. Le premier partenaire commercial du pays aujourd'hui est la Chine. Et si la France y reste une invitée de marque, elle a peut-être tort de se croire chez elle. On lui saura gré d'y avoir exporté, peut-être par inadvertance, ses valeurs démocratiques. Reste à savoir, écrit Devalfon dans Libé, si le pouvoir qui se mettra en place en retiendra des leçons de liberté et d'égalité, ou seulement celle d'une hypocrisie qui aura duré plus de 50 ans. Ok, bon, on a à peu près le cadre alors, voilà, avec ces deux articles de Libé. Vous en pensez quoi ? Peut-être que certains... Il y avait une personne qui était... qui se présentait comme gabonaise tout à l'heure dans le chat, qui est peut-être sur place ou qui vit peut-être en France. Donc moi, ça m'intéresse qu'on puisse échanger un petit peu. Alexandra, ne t'inquiète pas, il y a Alexandra qui inquiète parce qu'elle dit que tout à l'heure, j'ai dit mon mot de passe alors que mon micro était ouvert. BG3822 n'est pas mon vrai mot de passe. En fait, c'était une petite blague très drôle. Voilà. Ça s'appelle une blague de boomer. Il y a Tom Kercourt qui est un ami, qui est un journaliste, qui est venu dans l'hebdo Étienne, qui est avec nous, qui nous dit « Les militaires se revendiquent comme le bras armé de la volonté du peuple, comme toujours en cas de coup d'État d'ailleurs. Mais les reporters de l'agence France Presse dans les villes ont plutôt vu des citoyens paniqués par la situation. » Alors c'est quand même... toute proportion gardée, ça ce coup d'état. Vous allez me dire, un coup d'état militaire, ça ressemble beaucoup à un coup d'état militaire, mais ça rappelle quand même un peu ce qui vient de se passer au Niger, hein. Ce coup d'état qu'on suit depuis quelques semaines déjà ensemble, quoi. Bon, ben, rendez-vous demain matin, enfin demain matin. Rendez-vous demain matin si vous avez la bonne idée de lire les journaux. Voilà. Je sais pas, demain matin, achetez-vous. Attendez peut-être Le Monde qui va sortir en début d'après-midi demain. Je pense que sur le Gabon, je pense que Le Monde qui a une vraie appétence pour l'actualité internationale peut être une bonne source demain en début d'après-midi. Vous aurez sûrement un slash des articles de qualité sur le Gabon. Libération qu'on vient de lire ici, Le Figaro. Voilà. Le Parisien, c'est un journal que j'aime bien aussi, parce que c'est un journal qui a un vrai talent, je trouve, pour comment dire, dans la pédagogie de l'info, voilà, en essayant de raconter le plus simplement possible, le plus clairement possible, des situations parfois compliquées. Donc, Le Parisien est un journal que j'aime bien pour ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, en tout cas, à acheter un journal demain ou aller voir sur internet les articles en libre accès, parce que tout n'est pas soumis à abonnement. Et puis sinon, on se retrouve, je pense, demain soir, puisque je suis en train de me rendre compte qu'il est tout à fait possible de lire un petit peu les papiers le matin et de vous retrouver le soir et de vous saouler avec mes histoires d'actu dans non pas la matinée Étienne, mais la soirée Étienne. Maintenant, on va voir ce qui se passe autour de monsieur Jean-Marc Morandini avec cet article que je vous ai mis de côté dans Le Parisien. Pipa64, merci beaucoup pour le Prime. Liofac, merci beaucoup pour ce 13e mois d'abonnement. Morandini, Jean-Marc Morandini, l'animateur, le présentateur, notamment sur CNews, eh bien, a été à nouveau condamné pour harcèlement sexuel. Donc, je ne sais pas si vous aviez l'info. Malgré une deuxième condamnation, deuxième, par le tribunal correctionnel hier, la chaîne Info, donc CNews a décidé de maintenir à son poste l'animateur au nom de la présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Sur le coup, j'étais un peu surpris, parce que dans la même phrase, je vois que l'animateur a été condamné pour la deuxième fois, mais qu'il est maintenu à son poste au nom de la présomption d'innocence. Alors sur le coup, je me dis, mais il se trouve que, vous l'avez deviné, il a fait appel. Enfin, son avocat a fait appel. Et donc, bah, du coup, effectivement, CNews dit, bah, puisqu'il a fait appel, il est considéré encore comme innocent. Et vous allez voir que ce n'est pas la première fois. OK. Je ne juge pas. Benoît d'Aragon, qui est un spécialiste des questions de médias, écrit, La rentrée commence mal pour Jean-Marc Morandini. C'est pas faux. Ce mardi, au lendemain de son retour à l'antenne de CNews après une pause estivale, l'animateur a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Paris. La sanction n'est pas symbolique, 6 mois de prison, avec un sursis probatoire de 2 ans, avec notamment l'obligation d'engager des soins psychologiques, 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité pour harcèlement sexuel. En cause, de quoi s'agit-il? Pour ceux qui ne connaissent pas le fond de l'affaire, on va aller vite, mais pour que vous sachiez un petit peu, merci beaucoup Romtan pour cet abonnement. Des castings crapoteux organisé en 2015, lors desquels l'animateur de la chaîne Info du groupe Canal+ avait demandé à l'époque, pressamment, de façon insistante, à de jeunes hommes de lui envoyer des photos intimes et des vidéos pornographiques en échange d'une place dans Les Faucons, hein, qui était une web série se déroulant dans un vestiaire de foot, principalement dans les douches. Pour arriver à ses fins, l'animateur se cachait derrière le faux profil d'une directrice de casting, baptisée Catherine Leclerc, et en fait, derrière Catherine Leclerc, en fait, c'était lui. Cinq de ces jeunes hommes ont porté plainte. Le jugement rendu hier est sévère, explique Le Parisien, sur 22 pages. 22 pages. La présidente du tribunal accable le présentateur vedette. Elle reprend de nombreux échanges, notamment avec un des plaignants qui s'appelle Gabriel. Alors, bon,
Voilà. Je ne vous lis pas ce passage sur ce que demandait Jean-Marc Morandini à ces jeunes hommes en leur promettant un rôle. Vous irez voir si ça vous intéresse. Voilà. C'est un petit peu hardcore. Le tribunal voit dans le comportement de l'animateur la preuve d'une manipulation, donc pour obtenir des faveurs sexuelles. À la sortie du tribunal, son avocate, Florence Rowe, a immédiatement annoncé faire appel de cette décision, hein, ce que je vous disais. Un recours qui pousse CNews, où Morandini est présent chaque matin entre 10h30 et midi, à lui réitérer son soutien. Nous sommes, déclare la chaîne, attachés au respect de la présomption d'innocence. Jean-Marc Morandini continuera donc de présenter son émission sur CNews, nous a confié la chaîne Info. Et le Parisien de nous rappeler que la réaction avait été exactement la même en décembre dernier, quand la vedette avait été condamnée à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs envers trois adolescents de moins de 18 ans qu'il avait approchés sur les réseaux sociaux et qui il avait demandé des photos dénudées. Dans ce volet, l'animateur attend son procès en appel, puisqu'il y a eu appel, dont la date n'a toujours pas été fixée. Au sein de la chaîne d'info conservatrice, écrit Le Parisien, la tolérance dont bénéficie Morandini fait grincer quelques dents. Royabun 1, merci beaucoup pour ce prime. À CNews, Morandini est un peu un cas à part. Personne ne le croise jamais dans les couloirs, puisque depuis son arrivée en 2016, il prépare et présente son émission dans d'autres locaux. En fait, il ne fait pas ses émissions à CNews. Des locaux séparés près des Champs-Élysées, quand l'ensemble de la rédaction est basé dans le 15e arrondissement. Malgré son actualité judiciaire chargée, ses audiences, alors, si je puis me permettre, pas les audiences au tribunal, hein, les audiences de son émission, quel humour, sont au beau fixe. Voilà. Donc voilà l'affaire Morandini. Ouais, vous avez peut-être en entendu parler, c'était pour vous donner un petit peu les bases de l'info. Je vous lis un petit peu là-dessus. Est-ce que Morandini parlera de l'affaire Morandini dans son émission People? Chris, c'est une bonne réponse. Bonne question, je n'ai pas la réponse. Tourtemiel écrit, je sais que c'est légal comme stratégie, mais ça donne la gerbe quand même. Véritable question, demande Tom Kercourt, qui est donc le journaliste dont je vous parlais tout à l'heure, qui connaît bien la vie des médias, et qui dit, véritable question, quel intérêt a CNews de maintenir à l'antenne une personne doublement condamnée en première instance? La chaîne ne trouve plus de pub à caler avant, pendant et après ses émissions. Enfin, je ne savais pas, mais si Tom nous donne l'info, je sais que c'est juste. Aucune marque ne veut s'afficher à côté. Alors ça, je n'ai pas la réponse, Tom. Je ne sais pas si toi, tu as une idée. Si tu me dis que les annonceurs ne veulent plus mettre de publicité autour de son émission, peut-être que la réponse, c'est l'audience. Parce que dans la bataille des audiences, pour que CNews puisse afficher la meilleure audience possible, hein, vous avez quatre chaînes info en France qui se tirent un peu la bourre, un peu beaucoup, BFM, LCI, CNews et France Info. Si Morandini fait de très bonnes audiences, eh bien ça gonfle les audiences de la chaîne. Ça peut être un élément d'explication. Curieux qu'il le conserve. Ce qui est intéressant, c'est que si je ne dis pas de bêtises, Europe 1 avait mis dehors Morandini quand ses affaires avaient éclaté. Donc contrairement à CNews, là, malgré les condamnations, Europe 1 qui entre-temps a changé et a été intégré dans l'univers médiatique Bolloré. Quoi. Alors c'est de la vie médiatique fiction ce que je fais, mais est-ce que le Europe 1 d'aujourd'hui mettrait dehors Morandini? Il ne travaille plus du tout sur Europe 1, Morandini, hein, je crois. Je sais plus. Tant que j'ai pas écouté. Certains soulignent qu'il a une proximité avec Bolloré, le propriétaire de la chaîne, ça je ne le sais pas. Ah, Tom, tu m'as envoyé un truc. Tu m'as envoyé un DM. Tu m'as envoyé un DM sur X.
mec qui s'énerve tout seul. Sur Twitter. Ouais.
Il m'a envoyé un truc. Sur, ouais, sur le crash de la pub, en fait, sur l'émission de Morandini. C'est extrêmement intéressant. Excusez-moi, je réponds à Pépin qui me travaillait sur un qui travaillait sur un visuel pour le Samplay de dimanche 20h et je veux pas qu'elle se couche trop tard, je vais lui répondre tout de suite. Elle m'a proposé deux visuels. C'est pas mal, c'est super ce qu'a fait Pépin. Donc là c'est ok, c'est noir et là c'est blanc. C'est joli. Bon, excusez, hein, je vais mettre ma petite cuisine. Voilà, faut pas que je vous montre la scène parce que. Si, je vous ai déjà dit que je recevais dimanche dans Simplay ou pas. Blanc ou noir. J'hésite, tout est joli. Ouais, c'est bien en blanc comme ça. Bon, je veux bien. J'aime bien le premier. Ouais. Ah, je vous ai déjà dit. Oh, je vous ai déjà dit. Oh, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Oh, bah, je, bah, c'est bon, je vous ai déjà dit. Alors, moi, je vais vous montrer le visuel, alors, du coup, en avant-première. Hop, moi j'aime bien. Oh, j'hésite. Le problème c'est que Pépin a fait des trucs trop jolis. Donc là j'hésite entre deux visuels. Non, je vais pas vous faire un sondage là-dessus. C'est un détail. C'est un mini truc. Ça n'a rien à voir. Excuse-moi. J'hésite. C'est trop. Mais il travaille trop bien. Non mais c'est vraiment, c'est un en plus, je vous montrerai les deux visuels, vous ne verriez pas la différence, je suis en train de prendre la tête sur un truc. Attends, les deux sont bien, ces deux versions sont bien. Allez, allez. Allez. J'arrive pas à me décider. Je suis chiant. Allez, on va prendre le premier. C'est mon feeling. Ok, d'accord. Ok, je vous montre le visuel. Allez, on part. Je réponds à Pépin. C'est où le plus? C'est où le plus sur ce clavier? Excusez-moi, je suis fatigué. Voilà, merci, merci, merci. Elle est vraiment super. Quelle super, super personne, quoi. Pépin. Quelle reine, quelle queen. Ok, vous êtes prêts? Attention, je vous montre le visuel d'annonce de l'invité du Samplay numéro 2 de dimanche 20h. Tintin, c'est pas du tout une musique de suspense, ça. 3, 2, 1, et go! Voilà. Dimanche soir, on reçoit Jill dans Samplay à 20h pour nous immerger, nous promener dans l'univers de Pokémon, notamment de version Pokémon Émeraude, voilà, qui sera un petit peu le cœur de notre stream. Voilà, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, même si Malo me parle beaucoup de Pokémon, et voilà, elle va me parler aussi d'autres jeux Pokémon, mais notamment de celui-ci. C'est cool, non? Vous en pensez quoi? Hein? Ça vous plaît? C'est Pépin qui fait les jolis visuels. C'est joli quand même. Hein. Voilà. Donc ça, je le poste, vous l'avez en première, puisque quel jour on est? Mercredi, je le poste jeudi, je pense. Jeudi ou vendredi. Jeudi. Hein. Ouais, voilà. Ça, c'est simple. C'est dimanche, ce sera le numéro 2 après le numéro 1 de la saison qui était avec Étoile. Voilà. Rendez-vous dimanche 20h. Navado, merci pour le troisième mois d'abonnement. Royal Bun 1, merci pour le Prime. Et puis, puisqu'on... Oh, cette transition. Mais c'est fatigant d'être à ce point bon. J'enchaîne, je passe de Jill, de Pokémon Emerald à une pleine page dans les échos de ce matin sur l'univers du jeu vidéo et sur la belle séquence qui s'annonce pour Ubisoft. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec Assassin's Creed et Avatar, une fin d'année XXL. Carrément, ce profil pour Ubisoft. Bon, je sais qu'Ubisoft, c'est une entreprise qui fait couler beaucoup d'encre. En général, quand je parle d'Ubisoft, le chat se réveille un petit peu et me dit des choses à propos de cette entreprise. Et là, a priori, les échos nous disent qu'il y a une séquence qui arrive pour Ubisoft qui est un peu genre du feu de Dieu. Lors des prochains mois, a écrit ce matin le journal, le numéro 1 français du jeu vidéo va dégainer une flopée de titres. Après un début d'exercice mouvementé, Ubisoft s'est remis dans le sens de la marche, mais doit maintenant confirmer en réussissant le lancement de ses prochains jeux. Hop, zoomons un petit peu, lisons cet article. Entre septembre et mars, donc entre maintenant et mars, le champion français du jeu vidéo Ubisoft va sortir l'artillerie lourde de Crew Motorfest, Assassin's Creed Mirage, Just Dance 2024, Avatar Frontiers of Pandora, Prince of Persia The Lost Crown, Skull and Bones, jeu d'ampleur non dévoilé encore, ainsi que trois titres free-to-play, X-Defiant, Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence. Le menu s'annonce copieux et varié. J'ai l'impression que il m'a fallu un quart d'heure pour lire tous les jeux qui allaient sortir Ubisoft. Attention, il y a Cold Team qui me met en garde, qui me dit « Oh Samuel, ne te laisse pas avoir, ils sont coutumiers des grandes annonces Ubisoft ». On verra bien. On est sur un rythme de plus de d'un hit ou d'une valeur sûre par mois. C'est énorme. C'est énorme. Souligne un analyste financier du jeu vidéo qui s'appelle Charles-Louis Planade. L'exercice 2023-2024 est l'année champagne chez Ubisoft. Bon, celle qu'on attendait depuis 5 ans. Entre les reports de jeux qui étaient dus au groupe et le retard pris dans la production en raison de la crise sanitaire. Premier à ouvrir le bal le 11 septembre de Crew Motorfest, jeu de course auréolé d'un joli buzz, plusieurs titres de la presse spécialisée le comparant au blockbuster Forza Horizon de Microsoft. De Crew Motorfest, certains ont entendu parler ? C'est le premier jeu à sortir. Web, me dit MGCTF. Ouais, c'est bien, non ? Le Forza du pauvre, dit Xobar. Oh là là là. Il faut oser la comparaison quand même. Poison, vous estimez que la comparaison ne vaut pas. Crew Motorfest, ça va flop, me dit Extra Creativity. Nul, me dit Matako. Ok, d'accord. Les marchés vont surtout porter leur attention sur le lancement le 5 octobre d'Assassin's Creed Mirage, le nouvel opus de la franchise phare du groupe qui revient après 3 ans d'absence. Sorti en 2020, Assassin's Creed Valhalla a réuni plus de 20 millions de joueurs depuis et généré plus de 1 milliard d'euros de revenus, c'est beaucoup, soit la meilleure performance d'un titre de la licence depuis la création en 2007. Se déroulant au 9e siècle dans les ruelles de Bagdad, ce nouvel épisode donc d'Assassin's Creed, mettant en scène les aventures de Bassim, un voleur des rues devenant maître assassin, a vu son développement être dirigé par les équipes bordelaises d'Ubisoft. Alors ça, je le savais. Il y a 47 Alexia qui dit punaise, je vais perdre mon mari pendant un mois. En collaboration avec une dizaine d'autres studios du groupe dans le monde, jamais écrivent les échos ce matin, un studio français de la firme n'avait jusqu'alors occupé ce rôle de chef d'orchestre. C'est intéressant. Pour un titre d'Assassin's Creed. C'est la première fois qu'un studio français est un peu le chef d'orchestre autour d'un volet de Assassin's Creed. Plus condensé que ses récents prédécesseurs en matière d'heures de jeu, Mirage va être proposé à partir de 50€, y compris sur les consoles de la nouvelle génération, un prix agressif en pleine période inflationniste dans le secteur, donc 50€ ce serait pas trop cher. Ce titre dispose de tous les ingrédients pour plaire aux fans avec un style proche des débuts de la franchise. Les trailers sont convaincants et la base de joueurs de la licence est si forte que les ventes seront au rendez-vous, comme pour une nouvelle BD d'Astérix, dit Charles-Louis Planade, ce spécialiste que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on a un petit trailer ? Ok, on se fait un petit trailer. Je connais pas moi tout ça, moi. Ok, trailer d'annonce YouTube officiel, let's go. Attendez-moi, je suis pas prêt. C'est fou ça. Internet, ça fait une vitesse maintenant là. Oh là. Trailer.
Bassim Ibn Isra, es-tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être ?
Je le suis.
Prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher ?
Je le suis.
Es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre ?
Je le suis.
Tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. N'oublie jamais les principes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair des innocents. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Tu fais partie de ce qu'on ne voit pas.
Assassin's Creed Mirage, disponible en 2023.
Ok, alors évidemment c'est le trailer ça, hein. c'est pas le jeu, et il y a un des modos, MGCTF, que je remercie, qui me dit qu'il m'a mis un lien pour une vidéo du gameplay. Ok, let's go. Voilà, moi j'ouvre ça comme ça, à l'arrache, ça pourrait être n'importe quoi, j'ai confiance. Hein. Ok, ça alors ok. Pas les graphismes quand même.
There you are.
Don't let him escape.
Time to vanish. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
I am glad you are safe.
Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim.
We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus.
I have found dwellings in three districts that are most unassuming.
Certains me soulignent que Manique est quand même, ça ressemble beaucoup à la, au premier opus du jeu, mais d'ailleurs les échos le disent aussi, hein, voilà, avec un style proche des débuts de la franchise. Voilà. Sondage comme ça, express rapide, est-ce qu'il faut que je stream ce jeu, est-ce que dans les samplays des prochaines semaines, des prochains mois, est-ce qu'à un moment il faut que j'invite un gamer, une gameuse autour de l'univers d'Assassin's Creed? Pour l'instant, j'ai calé 6-7 invités en tout déjà sur les 31 que nous allons recevoir. Ouais, j'ai dit oui. Ok, d'accord, ok. Ok. 31 jeux, hein, c'est le projet. 31 jeux entre maintenant et juin. Voilà. Sachant que pour l'instant, on a fait donc 2 jeux en juin, puisqu'en juin, on a fait 2 émissions test. On a joué donc avec l'univers de Super Mario avec Ken Bogard. Avec Kayane, on a joué à Street Fighter 6. On a fait la première de la rentrée avec Étoile dimanche dernier dans l'univers évidemment de Smash et Pokémon notamment avec Jill dimanche. Et puis j'ai déjà calé les prochains, mais là c'est secret. Voilà, 31 jeux, et puis j'espère bien qu'il y aura une deuxième saison, une troisième saison, et à raison d'une trentaine de jeux par saison, ben, d'ici 3 ans j'aurai fait quasiment une centaine de jeux. Cool, c'est le projet. Qu'est-ce qui se passe après? Juste, avant d'aller plus loin, Ubisoft, je lisais dans le chat des messages en mode... alors Ubisoft nous a beaucoup déçus, il y a eu beaucoup de retards, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein, Ubisoft qu'on présente souvent comme le français, le champion français du jeu vidéo. Quel est votre regard sur Ubisoft aujourd'hui, vous? Ça m'intéresse un petit peu. Négatif, me dit Ogbald. Mauvais, mais pourquoi? C'est quoi le problème? Full bug en général. Ouais. Assez négatif. Pas bon. Oh là, ça s'est dégradé, me dit MGCTF. Pas bon, des jeux buggés, pas intéressants. C'est vrai, beaucoup de déceptions. Ubisoft a tenté un virage vers la crypto, me dit Extra Creativity, qui a déçu son public. Beaucoup de promesses, beaucoup de déceptions, trop de foutage de gueule de la commu. Naufrage, me dit Balzarian. Ils ont abusé d'une recette. Fierté française, mais trop de bugs, me dit Sophika. C'est pas des mauvais jeux, mais ça reste grand public. C'est pas pire que les grosses autres grosses boîtes, me dit et vive Zorblog. Trop générique, passé de renouvellement, déçu mais toujours fan, me dit Hercule. Ouais. Ubisoft, c'est pas super depuis 5 ans, alors qu'avant c'était top. On sent un peu les amoureux transis, déçus plutôt. On sent qu'il y a eu presque de l'amour pour ce studio et qu'il y a eu de la déception ces dernières années, c'est ça? Ubisoft nous sort les mêmes jeux chaque année, me dit Al Dumbledore. Aucune originalité. Ah ouais, ok, d'accord. Ils n'inventent plus rien, peu d'innovation, trop de recyclage, vous êtes hyper d'accord. Hein. Nico Manga me dit, entreprise qui va mal, oui, qui n'a pas encore réglé ses problèmes, mais qui tente d'innover quand même. Ok, ok. D'accord, ok. Bon, ça m'intéresse. Ok. J'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Samplay, c'est pour explorer cet univers du jeu vidéo, dont mon exploration personnelle s'est arrêtée en 1988. Donc il s'agit un petit peu de rattraper mon retard. Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Eh ben que voilà, ce matin dans les journaux, j'avais pas trouvé un milliard d'articles intéressants. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était, parce que je sais qu'on va en parler vendredi soir dans l'hebdo Étienne avec Jean, ça je suis sûr, cette initiative politique du président Macron qui a réuni tous les partis politiques autour de lui. 22h39, c'est peut-être terminé à l'heure où on parle. Je fais un dernier petit tour sur les journaux pour voir s'il y a des articles qui seraient sortis, des déclarations d'ailleurs des uns et des autres. Il n'y a pas de communiqué officiel qui est prévu, mais rien n'empêche
les invités de parler à l'issue de cette réunion à Saint-Denis, et je ne vois pas de déclaration. On en parlera demain soir. Je vais me lever tout à l'heure assez tôt, avant Question pour un champion, pour vous lire les journaux, et je pense qu'on, je vais essayer qu'on se retrouve demain soir pour un petit stream. C'était un peu l'idée. Voilà. Alors, ce sont des streams qui seront peut-être un peu moins longs que mes streams du matin. Voilà, là c'est un stream tout court, quoi, même pas deux heures. Mais j'aime bien cette idée de moins m'absenter, mais de ne pas m'absenter, notamment quand j'ai Question pour un champion. Donc, mission réussie aujourd'hui, j'espère que je serai là demain, et puis vendredi il y aura l'hebdo Etienne, et dimanche il y aura ça me plaît. On va faire un petit horoscope pour terminer, en mode un petit peu chill. On va aller sur le Parisien, puisque j'ai oublié de vous... Oh, j'ai déjà le Parisien de demain. Alors l'avantage d'être abonné, c'est drôle, c'est que vous avez assez tôt le soir certains journaux, et là vous avez déjà le Parisien de demain. Alors non, on ne va pas repartir pour une revue de presse avec le Parisien. C'est intéressant, hein, peut-être que Libération est sortie, vous allez voir. On va faire un petit test. Voilà, le Libération de demain. Bon, alors, prenons quelques secondes pour voir les unes des journaux qui sont déjà sortis. Ça, c'est l'un des intérêts d'être abonné numériquement aux journaux, c'est que vous les avez assez tôt le soir. Vous voyez, on compte, il est 22h41, j'ai déjà le Libération de demain. Donc la une de Libé, demain, c'est justement sur le coup d'État au Gabon. Oh là là, si je parle là-dessus. Bongo, putché dehors. Magnifique. Ah, je suis obligé de vous lire l'édito. L'édito de Dovelfon, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure. Ah, c'est super. L'édito de Dovelfon, c'est l'édito qu'on a lu tout à l'heure. Voilà, qui était déjà en ligne, d'accord. Ok. Donc vous avez, je vous le disais, hein, je m'en doutais. Voilà, vous avez 5 pages. 5 pages sur le coup d'État. Voilà, la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui est intéressant, je passe vite, la sécheresse, la fin des trottinettes, le dernier est en gage à Paris, hein. C'est la fin des trottinettes en libre service à Paris, donc ça y est, c'est effectif, donc on en parle, les conséquences, voilà, pas mal le Libé de demain, petit dessin de Coco, sur Ségolène Royal. Ok, d'accord. Vous voyez, donc, Libération est disponible, le Parisien est disponible. Une sur... oh là là, c'est chaud, ça. Les chiffres noirs des agressions sexuelles dans les transports en commun en France. Selon une note de police que nous révélons, les plaintes des voyageuses ont été multipliées par 2 au cours des 10 dernières années. Les agresseurs ont entre 12 et 72 ans. Bon, c'est pas... un sujet qu'on évoquera peut-être demain. Ok, ça, c'est la une du Parisien. Est-ce qu'on a déjà le Figaro à cette heure-là? On a déjà le Figaro, on télécharge le Figaro. Magique, hein. Drogue, les villes moyennes dans la spirale de la violence, c'est quelque chose qu'on a évoqué très récemment ensemble. Est-ce qu'on a déjà la Croix? Sans doute. C'est bien, comme ça on voit les journaux de demain. La Croix. Alors je suis abonné à chacun de ces journaux, donc c'est assez pratique. Le Pape en Mongolie, les nouvelles routes de la foi. Bon, La Croix, c'est un journal chrétien, catholique, et donc qui couvre plus que les autres journaux l'actualité de l'Église. Alors je vous avoue que ce n'est pas des articles que je partage souvent avec vous, mais bon, pour le coup, ici, on a une assez propre à La Croix. Voilà. Et vous avez un édito sur le putsch au Gabon. Ça, c'est pour La Croix. Ok. L'humanité est sûrement disponible déjà aussi. Hop. La brûlante inaction. Il est peut-être question d'environnement. Hop. Jeudi 31 août. Ah oui, demain c'est le 31 août. Il s'agit de quoi? Regardons. Alors, il y a un petit bug sur l'appli de Luma. C'est-à-dire que je peux le télécharger, mais pour le lire, il faut que je ressorte et que je re-rentre. Tout petit bug, c'est pas méchant. Voilà. Alors. C'est le réchauffement climatique, la brûlante inaction. Les incendies sont multipliés au cours de cet été 2023. Le plus chaud jamais enregistré. Les politiques de prévention et d'adaptation restent dramatiquement insuffisantes. Un petit point sur l'inaction devant le réchauffement climatique. Elle est incroyable, cette photo. Et puis, regardez, un dossier aussi, page 11, sur le coup d'État au Gabon. Je pense que demain, on aura des lumières intéressantes que je vais m'empresser de lire tout à l'heure quand le réveil va sonner. L'opinion est sûrement disponible aussi. Je dis sûrement parce qu'en général, le Parisien est le dernier des grands quotidiens nationaux à partir au bouclage à l'imprimerie. Donc à partir du moment où on a le Parisien, on a les autres, hein, souvent. La une sur le Gabon, nouveau coup dur pour la France. Okay. Et un dernier coup d'œil aux Échos, qu'on vient de lire, mais le journal de ce matin, et on va sûrement trouver la une de demain. Hop, elle est là. Magique quand même, hein. Pardon de vous vendre le truc, mais je trouve que là, on a la chance d'avoir une presse quotidienne nationale de qualité. Voilà, et l'accès est assez simple, quoi. La crise du Main in Germany inquiète Berlin. Ouais, il y a l'Allemagne, nos voisins allemands, qui ont une crise économique assez sauvage là, voilà, et qui sur lequel il y a des papiers assez régulièrement, notamment dans les Échos. Voilà un très rapide coup d'œil. Une des journaux demain, voilà, je vais juste vous mettre l'horoscope. Alors pour le coup, l'horoscope de demain, c'est plus intéressant que vous ayez votre horoscope de demain que d'aujourd'hui, puisque la journée est passée. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les journaux, là, je ne vois pas beaucoup d'articles sur ce qui s'est passé autour du président Macron. Il y a un article sur One Piece, avec l'arrivée de One Piece sur Netflix. Ah, c'est demain ? One Piece sur Netflix, c'est demain ? Ah ouais, ouais. Ah bah ça, je vais regarder ça. D'accord. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'articles sur le président Macron, tout simplement parce que tout simplement, c'est il n'y a pas encore d'infos, quoi. Alors l'horoscope, il est là. Je vais vous poser une petite question d'actu. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question d'actu pour vous départager ? Je vous rappelle le jeu qui est complètement débile. Le premier, la première à me donner son signe astrologique en même temps que la bonne réponse à ma question dans le chat, je vous lis son signe. Voilà. X-Creativity, que j'ai beaucoup lu dans le chat ce soir, merci pour ton Prime. Navado, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Nico Loco, merci pour l'abonnement offert à la commu. Qu'est-ce que je vais vous demander? Qu'est-ce que je pourrais vous demander? Ok, c'est une devinette. La nounou des enfants, qui est une femme formidable, on a beaucoup de chance de la voir, a offert aujourd'hui un cadeau d'anniversaire à mon aîné qui a eu 7 ans aujourd'hui. Elle lui a offert un jeu vidéo. Devinez-moi le jeu vidéo et donnez-moi votre signe en même temps et vous aurez gagné. Alors c'est parti. Je vois poisson Pokémon, carte Pokémon, verso Pokémon, poisson Pokémon. Ça n'est pas Pokémon. Ça n'est pas Pokémon. Street Fighter 6, ça n'est pas Street Fighter 6, ça n'est pas Minecraft. Alors, il a eu Minecraft il y a 2-3 jours par sa mamie, je crois. Mais aujourd'hui, c'était pas Minecraft. C'est pas le nouveau Zelda. C'est pas Pokémon Emerald. C'est pas Tetris. Ok, c'est Mystix FR qui a gagné. Puisque la nounou de Malo lui a offert ce matin et il lui a sauté dans les bras Smash Bros. Voilà. Donc le jeu que nous avons, auquel nous avons joué avec Rayou dimanche, Malo était super triste de ne pas pouvoir faire le stream avec nous. C'était tellement mignon. Malo était tellement triste de ne pas avoir le stream avec nous. Donc j'ai vu la nounou discuter un petit peu avec lui. Voilà. Et puis elle m'a montré une sélection de 3 jeux qu'elle avait choisi potentiellement pour Malo. Elle m'a dit qu'est-ce qui lui ferait plaisir. J'ai vu Smash et voilà. Et j'ai su que ça lui ferait plaisir. Et ce matin, il lui a sauté au cou, quoi. Voilà. Donc Smash, on est d'accord, Piggy 12, c'est ça ? 12, je crois, corrigez-moi. Malo a 7 ans, donc ça fait de moi un père totalement irresponsable, bien sûr. Mais après avoir joué avec Rayou, en fait, en vrai, j'ai trouvé que c'était pas violent, quoi. C'était c'est assez bon enfant. Enfin, moi j'ai trouvé ça mimi, quoi. Voilà. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi je trouve ça cool. De toute façon, le jeu vidéo à la maison, c'est encadré. Malo a le droit de jouer le vendredi soir. Et uniquement le vendredi soir, toi, il est petit, quoi. Donc il a le droit de jouer le vendredi soir avec ses parents. Il joue pas tout seul. Voilà. Donc c'est très encadré. Et bon, donc voilà, c'est Smash. Voilà. Donc c'est taureau, hein, et ça m'arrange bien parce que c'est mon signe. Et on va se terminer là-dessus. Enfin, on va pas se terminer là-dessus, mais on va terminer là-dessus. Puis je vais vous remercier aussi parce que c'est super gentil d'avoir été avec moi ce soir. Taureau, horoscope, donc de demain, hein, demain jeudi. Cœur, votre climat sentimental sera serein et affectueux. Ça tombe bien parce que je vais rentrer à la maison. Réussite, n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses. Vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai très envie de secouer le cocotier en ce moment, de tout casser, de faire le foufou et formidable. Forme prudence au volant, je n'ai pas prévu de rouler. Voilà. Voilà. Oh, c'est mignon. Il y en a qui plaignent ma pauvre épouse. Non, non, je rentre à la maison, là. Les amis, très sincèrement, mille merci. Voilà, c'est de petite expérimentation. Est-ce que j'ai l'énergie, la force, est-ce que familialement ça passe, de streamer le soir après Question pour un champion, après avoir lu les journaux le matin. C'est-à-dire, en gros, je suis rentré de Question pour un champion, pas trop tard. J'ai fait un dîner en famille. On a passé un bon moment avec les enfants. J'ai dit à Alain, tiens, est-ce qu'il y a moyen de moyenner d'aller faire un petit stream rapide au studio? Et parce que bon, je ne fais rien sans la validation et l'accord de mon amoureuse que j'aime d'amour. Et me dit, va streamer, va faire ton petit stream. Voilà. Donc merci Hélène, merci à vous, c'était cool, je suis content de cette petite Twitch TV qui parle d'un petit stream quickie. Je ne sais pas si c'est l'image que j'aurais utilisée. En tout cas, je suis content. Voilà. Donc les amis, merci. Merci du soutien, merci de l'attention, merci de la bonne humeur dans le chat. Voilà. C'est bien le soir aussi. C'est l'ambiance est assez apaisée, j'ai trouvé. J'ai bien aimé cette ambiance. Voilà. Donc, on remet peut-être ça demain soir. Je vous tiens au courant. Je vous souhaite une très belle soirée. Voilà. J'allais oublier, on fait un raid. On fait un raid, bien sûr. Hop. Vous voulez qu'on raid On va pas faire. On va le faire. Je vais pas vous mettre de pause. Hein. On va y aller. Hein. Qui est en live là? Pépin est pas en live là. Il y a qui en live là? Dites-moi. Ouais, je vois des propositions. Oh, je vois des propositions sympas là. Attendez. Comment ça s'appelle le truc sur lequel on est là? Twitch. C'est comme ça qu'on dit? Twitch. Alors je vais sur Twitch. Je tape. On me fait une proposition de chaîne là. Arrête, qui a l'air sympa. Que je ne connais pas. Si. Je coupe le son et je remets. J'arrive. Ok, j'ai trouvé un truc là. Ok. Oh, ça, ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est compliqué parce que souvent, vous me faites plein de propositions que je trouve sympas, quoi. Ok. Souvent, en fait, je me décide d'après vos mots. Parfois, vous utilisez des mots un peu touchant, un peu sympa, pour mettre en avant des streamers, des streameuses. Et je me décide comme ça, en fait. Là, je suis en train de lire vos petits messages sympas. Vous êtes plusieurs à me parler de la même chose. Je vais écouter quand même ce que j'écoute. Bougez pas. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah, vous m'avez convaincu, là. Ouais, vous m'avez un peu convaincu sur un truc, là. Ok. Allez, vous m'avez convaincu. Ok, super. Ok. Bon, on va voir l'ami Eric, alias Cheat Meal Hero. Eric, c'est un streamer, c'est un créateur de contenu, c'est un cuisinier. Il est passionné de gastronomie. C'est un mec formidable, à tel point qu'il est désormais tous les vendredis soirs dans les BOTM. C'est lui qui nous régale, voilà, qui nous amène plein de bonnes choses à manger, voilà, tous les vendredis soirs dans les BOTM, parce que les gens en avaient marre de manger des trucs surgelés, voilà, pas bons, que je préparais pour les invités. Donc, à un moment, j'ai compris que si je voulais que les invités continuent à venir, il fallait que je fasse un effort. Eric est tous les vendredis soirs dans l'hebdo Etienne, voilà. On est en train de lui installer même une petite caméra, petit micro pour qu'il puisse vraiment être avec nous. Je lance le raid, si vous parlez, c'est Cheat Meal, CHEATMEL_hero. Hop, je charge le raid. Je vous souhaite une très belle soirée. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous et merci pour tout. Merci des bonnes vibes, des belles choses que vous avez dans le chat, c'était bien agréable de vous lire. En fait, je pensais que ça allait peut-être m'empêcher de dormir en mode l'excitation du stream, tout ça, c'est l'inverse, vous m'avez plutôt apaisé, donc c'est bien cool. Bonne soirée, coucou à Eric, je vous retrouve demain soir peut-être. Ciao, ciao, merci pour tout.